Petit avertissement avant le début de l'épisode, vous allez remarquer un petit problème de son dans la première partie, dans la première moitié de l'épisode. On a eu une petite galère technique de micro. On espère que l'épisode sera quand même agréable à écouter pour vous et ça redevient normal à peu près après une heure d'épisode.
Du coup, petit changement de programme, hein, on n'a pas eu le choix.
Oui, parce que là, les films qu'on a vus, bah, plus personne ne peut aller les voir avant au moins un mois.
En échec total. Pour une fois qu'on va au cinéma plein de fois dans la même semaine, toutes les deux, voir des films différents, qu'on se dit c'est le moment idéal pour un zapping, bim, fermeture des cinémas.
Ouais, du coup, bah, on retourne sur nos canapés devant Netflix et compagnie.
C'est ça. Allez, bienvenue à tous sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café ou encore de pumpkin spicy latte, c'est toujours la saison. Et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Oula, j'ai bugué, c'est pas grave. Et on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode de Popcorn Zapping qu'on voulait faire sur le cinéma, mais qui, cette fois-ci, ce sera un popcorn zapping spécial confiné. Évidemment, les cinémas ont fermé et qu'on est tous chez nous, entre le travail et chez nous pour certains. Et du coup, bah, on va vous parler de ce qu'on peut regarder depuis chez nous.
C'est ça, exactement. On est totalement transparente. On vous dévoile les coulisses de notre podcast. Mais effectivement, on parlera de nos découvertes ciné dès la réouverture des cinémas. En attendant, nous, on va vous parler des 20 séries à binge-watcher avec nous. Enfin, avec nous. Nous, on a déjà regardé, donc c'est plutôt selon nous. Donc, on va parler des séries qui seront présentes sur Netflix, Prime, OCS, ou encore Disney+. Donc, on va faire un petit décompte. Marjo, elle est super forte pour ça lorsqu'elle fait le montage. Donc, on vous donnera le timing avec les différentes plateformes. Si vous voulez absolument pas savoir ce qu'il y a sur OCS pour pas vous dégoûter parce que vous n'avez pas la plateforme, vous pourrez bien évidemment zapper ces passages-là.
Voilà. Et donc, on va commencer par Netflix.
Petit disclaimer pour ma part, moi j'ai souhaité parler de séries qui sont un petit peu moins connues et qui méritent d'être découvertes. Typiquement les séries un peu cultes, genre Outlander dont on a déjà fait un épisode, ou là je pense par exemple à The Queen's Gambit qui en ce moment tout le monde parle que de ça partout. Voilà, volontairement j'ai pas souhaité les mentionner et ce sera l'occasion de faire des pop stories sur Instagram, mais on en reparlera tout à l'heure.
Oui, donc bon, moi, je pense que ma section elle reste beaucoup plus dans la catégorie les plus gros succès de Netflix, hein, puisque je ne suis pas abonnée depuis si longtemps et du coup, je n'ai pas encore eu ni besoin ni envie de fouiller le catalogue. Et bon, je pense que j'ai aussi une consommation de séries un petit peu moins intense que Charline. Donc, ouais, du coup, je me limite un petit peu à la fois à certains styles et puis surtout à certains... Voilà, je ne vais pas forcément chercher dans les tréfonds des catalogues.
Bah, tu dis ça, mais il y a une des séries, bon, je ne vais pas la mentionner, mais il y a une des séries dont j'avais jamais entendu parler, dont tu vas parler. Tu vois, comme quoi...
Oui, je pense qu'il y aura quand même des... Mais bon, je pense que voilà, certaines de celles dont je vais parler, il y a des chances que la plupart d'entre vous les ont déjà vues, mais d'autres, peut-être pas, donc on verra.
On verra ça, n'hésitez pas à nous le dire. Du coup, pour chaque série, on va avoir une petite trame hein, pour éviter de se trop s'éparpiller. Donc, on va commencer par vous dire le genre, comme ça vous savez tout de suite si ça vous plaît ou enfin si c'est votre style ou pas. Le nombre de saisons, d'épisodes avec leur durée et la durée du binge-watchage, du coup. C'est-à-dire, pour les novices, avec ce mot qui est apparu du coup en même temps que Netflix il y a quelques années, en fait, c'est combien de temps ça vous mettrait de regarder la série d'une traite en entière ?
Peut-être qu'il faudra qu'on conseille aussi si elle se prête plus ou moins à un binge-watchage dans les règles de l'art, c'est-à-dire d'une seule traite, ou si on conseille plutôt de...
Carrément, à rajouter du coup. Et du coup, je vais inaugurer et parler de notre première série, enfin de ma première série, parce que je crois que tu ne l'as pas vue,
Non.
qui s'appelle Mes premières fois,
C'est
ou
bien
en
pour
anglais, je crois
commencer.
que... Oui, c'est ça, je me suis dit, en plus, je n'ai pas fait exprès, mais ça collait tellement bien. Et du coup, je crois qu'en anglais, c'est Never I Have Ever. Vous savez, comme le jeu Je n'ai jamais, où on doit boire quand on a fait quelque chose, bref. Mais ça parle pas du tout de ça, hein, je vous rassure. Donc, le genre, c'est une comédie. Pour le moment, il n'y a qu'une seule saison, mais la saison 2 a été annoncée par Netflix. Et il y a 10 épisodes qui font entre 25 et 30 minutes chacun. Donc, en fait, vous en aurez pour 5 heures de tout regarder. Et honnêtement, le regarder tout d'une traite, ça se fait bien. C'est une série qui s'y prête. Donc, de quoi ça parle, le pitch général? Eh bien, ça parle de Davy, une lycéenne indo-américaine qui tente de survivre tant bien que mal au lycée avec ses copines, tout en assumant sa double culture, du coup, hein, américaine et indienne, et en surmontant le décès de son papa qui a eu lieu l'année d'avant. Donc, moi, pourquoi je la recommande? Dit comme ça, on dirait un peu une série pour ados, un peu à la Gossip Girl ou 90-210, mais en fait, pas du tout. Si je raconte juste les 5 premières minutes pour se faire une petite idée, on a cette adolescente, donc Davy, qui explique avoir été paralysée de tout le bas du corps pendant plusieurs semaines, voire mois même, du jour au lendemain sans aucune explication, et qui a dû vivre du coup avec le regard des autres, qui pensent tous que c'est psychosomatique parce que du jour au lendemain, elle a récupéré l'usage de ses jambes, pareil, sans aucune explication. Donc tout le monde pense que c'est dans sa tête à cause du drame, du décès de son papa. Donc en fait, vous l'avez compris, il y a de l'humour quand même, parce que toute cette partie-là est traitée vraiment de manière rigolote, mais c'est sur des sujets qui restent sérieux. L'accent est également beaucoup mis sur comment être une jeune femme américaine éduquée par des parents indiens, et je trouvais que c'était quand même assez original, c'est pas le genre de choses qu'on voit régulièrement. Et on voit justement comment cette adolescente surmonte un drame qui, dès le début, on a l'impression que c'est vraiment du passé, que ok, son père est décédé, il y a un petit moment, voilà, elle passe à autre chose, maintenant c'est plus axé sur sa vie au lycée, ses amours, etc. Et puis au final, on se rend compte que non, ça l'influence beaucoup dans sa vie, et donc on essaie de voir comment elle surmonte ça. On y parle de vrais enjeux sociétaux forts, un peu disséminés par-ci, par-là, mais je ne vais pas spoiler, donc vous verrez bien. Et le tout quand même de manière très légère et avec sincérité, avec beaucoup d'humour. C'est une série qui est très fraîche, très originale. Elle n'est pas forcément parfaite, il y a quelques petits défauts, mais moi je l'ai trouvée très moderne et j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, dernier point, pour les connaisseurs, la série elle est de Mindy Kaling, qui a joué dans Ocean's 8, récemment dans Late Night aussi, avec Emma Thompson. Donc voilà, elle est la réalisatrice de la série, elle s'est un peu inspirée de sa jeunesse. Bon. Pas tout à fait, hein, mais en tout cas, du moins au niveau de l'éducation par des parents indiens. Et Mindy Kaling, elle est surtout connue aussi pour une série qui est très drôle, The Mindy Project, qu'elle a développée et dans laquelle elle a joué également.
Ouais, moi je la connaissais, bah, je l'avais surtout découvert dans Late Night avec Emma Thompson.
Ouais.
Mais c'est vrai que ouais, du coup je m'étais un peu renseignée sur elle après Late Night et je me suis rendu compte que c'était ouais, une figure montante de
Ouais, c'est
Hollywood.
ça. C'est ça. Et du coup, je pense que cette petite série, elle a beau faire que 5 heures là comme ça, mais elle vaut le coup d'œil. Donc, je vous la conseille.
J'ai regardé la bande-annonce du coup, mais c'est vrai que avec que la bande-annonce, je me serais pas douté de tout ce que tu décris. La bande-annonce fait vraiment une série pour ados, comme tu dis,
C'est
avec
ça.
certes une diversité assez apparente, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte que des sujets pouvaient être un peu plus profonds que juste le quotidien d'une jeune fille.
Oui, bah moi non plus, la bande-annonce m'avait pas tenté plus que ça, même si j'adore les séries un peu teenage, type Gossip Girl, hein, tout simplement. C'est le genre de truc que je consomme beaucoup. Mais là, j'avais pas forcément envie de ça. Et c'est ma maman, alors coucou maman si tu nous écoutes, qui l'a regardée et m'a dit: Oh, cette série est super, regarde, tu vas adorer. Et je me suis dit: Oula, bizarre. Ok, allons-y. Et voilà.
Je vais enchaîner sur une autre série qui n'a rien à voir au niveau du genre, donc puisque c'est The Crown. Donc là, typiquement, on est dans le genre des best, j'allais dire best-sellers, c'est pas ce qu'on dit bon, sur Netflix, mais des séries à succès
Série à la une,
c'est
non, je sais
ça? Oui, enfin bref,
les plus gros succès, je crois, ou quelque chose
c'est
comme
ça,
ça.
les gros succès de Netflix. Donc The Crown, donc. C'est dans le genre biopic historique, on va dire. Pour l'instant, il y a 3 saisons, mais la saison 4 arrive très très bientôt, puisqu'elle arrive le 13 novembre, le 15 novembre, donc dans quelques jours. Et donc pour l'instant, il y a 30 épisodes d'environ 50 minutes, parfois une heure. Donc ça fait un binge-watchage assez massif hein, de 27 heures. Est-ce que je conseille déjà de faire d'une traite? Pas forcément. Moi, j'ai plutôt l'habitude de les regarder un, deux épisodes à la fois, mais pas plus. Parce que c'est des épisodes longs et où il faut se mettre dans l'ambiance avec les sujets qui changent à chaque épisode. Donc peut-être pas forcément tout regarder d'un coup. Mais donc de quoi ça parle? Donc c'est la vie d'Elisabeth II depuis son couronnement et en parallèle celle de la famille royale d'Angleterre et les épisodes qui se concentrent sur d'autres personnages qu'Elisabeth. Et donc chaque saison couvre plus ou moins une dizaine d'années. Et donc ça permet à travers du coup le point de vue de la famille royale de traverser l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle de l'Angleterre en particulier et un peu de l'Europe. Donc pourquoi je la recommande déjà pour ses acteurs, c'est vraiment des interprétations incroyables et ça rend vraiment la famille royale qui peut paraître lointaine et froide assez attachante ou en tout cas très très humaine puisque bon ils ne sont quand même pas Et donc, quand même, parfois des caractères un peu spéciaux.
Oui.
Est-ce que toi, tu l'as vu du coup cette série aussi?
Non, je ne l'ai
Non?
pas vu.
Ah! Je pensais, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée. C'est pour ça que je lui dis, tu n'as mis aucun commentaire, mais je me suis dit, peut-être que c'est. Mais non, non, ok, d'accord. Bon. Sinon, pour les passionnés d'histoire, vraiment, c'est une série qui est reconnue pour sa reconstitution quasi parfaite. Est très très immersive et même pour les curieux non spécialistes en fait au final on apprend plein de choses parce que bon on n'est pas forcément très au courant de toute l'histoire anglaise et de l'histoire de la royauté du XXe siècle. Ça insiste beaucoup sur la lourdeur protocolaire qui pèse sur la royauté donc ça correspond aux a priori qu'on peut avoir mais là on voit vraiment l'intérieur la manière dont ils sont obligés de vivre à part. J'oserais même dire confiné. Donc, je sais pas, j'y ai pensé là, en préparant, je me suis dit, en fait, c'est vrai que ça fait un peu confinement, la manière dont ils vivent. Bon, bref, c'est petit aparté. Mais vraiment, ça reste quand même très agréable. En fait, moi, je sais que je me pose devant The Crown et je me laisse complètement porter. Et c'est vraiment le genre de série où je me sens à l'aise, en fait. C'est vraiment. Une ambiance assez confortable. Je ne sais pas trop quel autre mot dire, mais ouais, confortable. Et j'étais assez surprise d'avoir été très émue par certains épisodes, alors que je pensais que j'allais être plus curieuse, mais pas forcément m'investir émotionnellement dans cette famille royale. Mais si, c'est très émouvant. Et vraiment, la manière dont ça traite les événements historiques, encore une fois, de manière très humaine, ça c'est vraiment un gros point fort. Donc, je la conseille pour tout le monde, même ceux qui sont a priori pas intéressés par des histoires de famille royale. Mais si on aime tout ce qui est quand même un peu fresque historique, mais aussi des portraits psychologiques assez subtils, parce qu'encore une fois, vraiment, grâce aux acteurs et grâce à la manière dont sont écrits les personnages, c'est très, très intéressant. Et du coup, avec des intrigues politiques aussi, mais pas quelque chose de très, très lourd non plus. Voilà, je la conseille vraiment à tout le monde, au final.
Ouais, moi, elle m'intéressait. En fait, je me rappelle, je sais pourquoi je ne l'ai pas vue, parce qu'au début, j'en avais entendu parler, je crois, quand j'avais pas Netflix. Et ensuite, il y avait déjà trop d'épisodes et j'avais peur. Je me suis dit, oh là là, les épisodes, ils durent 1 heure, il y en a beaucoup. Oh, voilà, là, pour tout rattraper. Mais au final, quand j'ai vu les affiches avec l'arrivée, du coup, d'un personnage, je pense que tu vois de quoi je parle, mais
Oui, je vois.
on va pas trop spoiler, même si on a vu tout le monde a vu ces affiches. Ça m'a encore plus donné envie de m'y mettre, donc je pense que je vais m'y mettre bientôt.
Oui, bon, moi, je pense qu'on peut le dire parce que c'est pas. Enfin, je veux dire, on connaît l'histoire de la famille royale.
Oui,
Donc là,
c'est
la
vrai.
saison 4 qui arrive, elle est très très attendue parce qu'il y a Princesse Diana qui arrive et aussi Margaret Thatcher. Donc, de nouveaux personnages qui arrivent à cette nouvelle saison. Donc, on a hâte.
Ouais, moi ça va me motiver ça. Du coup, j'enchaîne sur une série qui n'a rien à voir. Une série du genre comédie dramatique qui s'appelle On My Block. Donc, je sais pas si tu as entendu parler, Marjo, parce que c'est
Pas
vrai
du tout,
que.
pas
Ouais,
du tout, du tout.
voilà, c'est passé un peu pareil entre les mailles du filet, c'est pas très connu. Pourtant, moi, c'est peut-être parce que j'avais regardé les saisons 1 et 2, mais la saison 3, j'avais vu beaucoup, beaucoup de pubs. Et donc, encore une fois, merci maman de m'avoir recommandé cette série. Donc, la série a 3 saisons, il n'y en a pas de 4 qui est prévu pour l'instant. Honnêtement, vu la fin, je pense pas qu'il y en aura, mais on sait jamais. Ils n'ont pas dit non plus que c'était annulé, donc à voir.
Au total, il y a 28 épisodes de 25 à 30 minutes chacun, donc ça fait un total de 12h30. Alors, c'est également le genre de série, par contre, qu'on peut regarder d'une traite. C'est pas mieux de le faire, c'est pas moins bien de pas le faire, c'est kiff-kiff, mais c'est le genre de série qui s'y prête. Donc, de quoi ça parle, très rapidement, d'un groupe d'adolescents qui grandit dans les quartiers difficiles de Los Angeles.
Très bien.
Bon. Dit comme ça, c'est très court, hein. Bon, je vais vous en dire plus quand je vais vous faire mon top 3 de pourquoi je recommande cette série. Alors, pour la première, c'est les personnages, qui sont très originaux et hauts en couleur. On se le dit clairement entre nous, là, comme ça, une série où les 5 personnages principaux sont soit latinos, soit afro-américains, il n'y en a pas 50. Hein.
C'est vrai.
Et en fait, ça fait du bien, parce qu'ils bon, ont les mêmes soucis que nous, mais en même temps, la vie de famille est totalement différente, parce qu'ils ont une culture et des mœurs différentes. Donc, c'est assez sympa. Et dans ce petit groupe, ils sont hyper attachants. On a vraiment envie d'être parmi eux, de les connaître plus. Donc, ça, c'est cool. La deuxième raison, c'est le fait qu'on y parle de la violence qu'il peut y avoir dans un quartier difficile, avec des histoires de gangs, la difficulté de s'en sortir grâce aux études, mais pas que. Et du coup, voilà, ce sont des thématiques qui sont à aborder, qui rentrent bien dans cette série. Et le numéro 3, c'est l'humour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour, notamment grâce aux personnages. Je pense à un ou deux personnages qui sont vraiment la touche humoristique de la série et qui fait que on s'attache beaucoup à eux. Donc voilà, en tout cas, je valide, c'est une de mes séries chouchoutes. J'attends de voir si une saison 4, mais du coup, comme je l'ai dit, je ne pense pas. Et au final, ça suffit à elle-même, en fait, les trois saisons. On a fait le tour de ce qu'il y a à voir. Voilà. Et pour ceux qui ont vu Les Goonies, qui est un vieux film,
il y a
une petite référence, ils font une petite chasse au trésor aussi, un peu. Donc c'est pour ça, vraiment, elle est sympathique. Voilà, c'est pas non plus la série de l'année, mais elle originale est sympathique.
Du coup, c'est une série qui s'adresse plus ado, du coup, ou c'est plus très réaliste et.
Alors, c'est pas très réaliste, mais il y a quand même de la violence. Donc, je dirais pas ado-ado. Je la conseillerais pas à mes collégiens, typiquement, vu la violence qu'il peut y avoir. Ou alors, pouvoir en parler avec tes parents après, voilà, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu, de. Est-ce que c'est le genre de choses qui arrivent ou pas, etc. Mais en tout cas, des jeunes. Des vieux adolescents ou des jeunes adultes. pour faire un ordre d'idée, voilà, moi j'ai adoré, ma mère qui est plus âgée que moi, bien évidemment, vous en doutez, a adoré aussi. Donc d'accord. Je dirais pas vraiment pour ado, mais, okay. Mais ça reste quand même assez léger.
D'accord. Non, parce que c'est vrai qu'entre le sujet, le contexte, et en même temps tu dis que beaucoup d'humour centré sur les adolescents, c'est quand on. J'ai pas du tout vu d'image de cette série, du coup j'ai du mal à m'en faire une idée, mais ça a l'air chouette en tout cas.
Ouais, c'est sympathique.
Bon, encore une fois, on change totalement d'ambiance.
Mais je trouve avec... que c'est ça qui est cool. Hein.
Ah oui, je pense qu'on a fait un peu exprès. D'ailleurs, quand tu as organisé l'ordre, ça fait vraiment à chaque fois, on change totalement de style. Donc là, bon, gros blockbuster encore de Netflix, hein, The Witcher. Donc, dans le genre fantasy. Pur et dur. Donc il n'y a qu'une saison puisque ça a commencé l'année dernière et la deuxième est en tournage en ce moment même puisque le tournage avait été interrompu à cause de vous savez quoi. Et donc mais là ils sont en cours de tournage donc on espère la saison 2 pas bientôt mais non pas trop longtemps. Donc pour l'instant il n'y a que 8 épisodes de 55 minutes en moyenne, donc quand même des gros épisodes, mais du coup ça fait un binge-watchage d'environ 7h30 plus ou moins. À regarder d'une traite si on veut vraiment se plonger totalement dans l'ambiance, mais voilà, c'est selon, chaque épisode se suffit aussi, enfin à une histoire un peu, il y a une histoire filée, mais chaque épisode peut se regarder aussi indépendamment, vous n'êtes pas obligé, il n'y aura pas forcément des cliffhangers qui vous obligeront à enchaîner. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, de quoi ça parle, The Witcher ? Donc, évidemment, c'est une série adaptée de la série de romans Le Sorceleur et aussi des jeux vidéo qui a eu... Enfin, les jeux vidéo étaient adaptés des romans et la série est aussi plutôt adaptée des romans plutôt que des jeux vidéo. Ouais. Oui, c'est plutôt pour les spécialistes. Bref, donc, ça parle, en fait, ces aventures croisées plus ou moins en parallèle de Geralt, le personnage principal, qui est donc sorceleur, donc chasseur de monstres, Yennefer, qui est sorcière, magicienne, je crois qu'ils appellent ça magicienne dans ce monde-là, et Ciri, qui est une jeune princesse en fuite. Et en fait, ces trois personnages ont un destin lié, mais qui se découvrent en fait au fur et à mesure des épisodes. Et le tout dans un monde de dark fantasy violent et poisseux, au possible, très boueux aussi. Mais heureusement, il y a aussi le bard Jaskier qui est là pour adoucir les mœurs de sa musique. Il fallait absolument que je mentionne Jaskier, puisque je vais certainement intégrer la chanson qui est rentrée dans la tête de tous ceux qui ont regardé The
Ah, sympa!
Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty.
Donc pourquoi je la recommande, à part pour la musique de Jaskier, entre autres? Donc bon, déjà, c'est vraiment une série pour les fans de fantasy. Et aussi d'Henri Cavill, hein, puisque du coup, c'est l'interprète du rôle principal de Geralt. Et moi, comme je suis fan des deux, de fantasy et de Henri, c'était forcément pour moi. J'avais lu ni les livres, ni joué aux jeux vidéo. Mais donc du coup, c'est vraiment par la série que je me suis plongée dans cet univers qui est rempli de monstres, de magie et de tout ce qui fait des bonnes aventures épiques. Je vais pas trop en dire, mais voilà, il y a des dragons, il y a un dragon notamment, donc je sais qu'en général ça attire pas mal de monde de dire qu'il y a un dragon, donc, donc voilà. Et donc bon, c'est une série qui a ses défauts, comme parfois avec la fantasy, ça peut flirter avec le kitsch, même si c'est quand même du gros budget et c'est des très bons effets spéciaux, mais voilà, ça plaira pas forcément à tout le monde. Mais je sais pas, je la trouve quand même hyper attachante, cette série, notamment pour ses personnages et le duo Geralt-Jaskier, mais aussi Yennefer, qui est vraiment un très beau personnage féminin, qui a une vraie épaisseur et qui, dès son introduction, elle m'a vraiment accrochée, quoi. Donc voilà, malgré son côté dark fantasy aussi, un des gros avantages, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, ce à quoi je ne m'attendais pas forcément. Bon, encore une fois, grâce à Jaskier, mais aussi grâce à Henri Cavill, qui en fait surjoue un peu le côté sérieux et cynique de Geralt, au point d'en être vraiment très drôle, quoi. Un côté un peu pince sans rire et un peu. c'est vraiment très drôle. Et donc, ça rappelle que Henri Cavill est aussi un très bon acteur comique. Donc, on ne peut pas forcément penser à ça quand on pense
non,
à Superman,
c'est sûr.
Mais voilà. Et voilà, sinon j'ai eu un gros coup de cœur pour la musique, pas que Jaskier, hein, mais du coup la bande originale qui est de Sonia Belousova, qui est excellente. Et donc voilà, je la recommande pour les amateurs d'aventure, de fantasy évidemment. Il faut quand même ne pas être repoussé par la violence un peu crasseuse, hein, c'est un peu dégueu parfois, mais voilà, ça fait moins peur que ce que je craignais, donc même s'il y a des monstres qui peuvent faire un peu peur, ça va. Et aussi, il ne faut pas être non plus être trop perdu par une narration un peu décousue. La première saison, je ne veux pas trop en dire pour ne pas spoiler, mais on ne comprend pas forcément tout de suite l'enchaînement des événements, mais on le comprend à la fin et c'est assez clair à la fin. Mais voilà, c'est ce que j'ai à dire pour savoir si c'est pour vous ou pas, si vous n'y êtes pas encore intéressé.
Bah, moi, comme tu sais, je ne suis pas hyper forcément fan de fantasy. Du coup, j'ai envoyé Thibaut, qui lui avait déjà joué aux jeux vidéo, donc qui connaissait un petit peu, en lui demandant « Est-ce que tu penses que ça va me plaire ?» Et il m'a dit « Honnêtement, après avoir vu, je sais que ça va pas te plaire.
Ouais. »
Bon, bah, donc du coup, j'ai pas regardé. Je pense pas forcément regarder.
Oui, même c'est si vraiment... C'est vraiment de la fantasy
oui,
pure et dure. Hein. Même si, c'est pas, tu vois, par exemple, Game of Thrones, où il y a des gens qui ne sont pas fans de fantasy, qui ont pu s'y plonger et vraiment s'y intéresser. Là, je pense que le côté magie, monstre et tout est beaucoup plus présent. Donc, faut quand même être attiré par ça à la base, quand même.
Très bien. Et donc, je repars sur une série qui n'a rien à voir avec une comédie que je pense, là, tout le monde doit connaître, The Good Place.
Bah, je connais que depuis pas longtemps parce que j'ai enfin commencé la saison 1, j'ai presque fini la saison 1 d'ailleurs.
Oui, mais sans avoir vu forcément, tu en avais déjà entendu parler, je crois, non?
Oui, j'en avais,
Série...
bah, grâce à toi, je pense.
Ouais.
Hein. Mais oui,
Ah,
effectivement, c'est
peut-être.
assez.
Donc c'est une série finie. Donc voilà, pas d'autres séries de saison à attendre. Il y en a 4. Au total, il y a 52 épisodes de 22 minutes chacun. Ça fait 19 heures. Bon, 19 heures d'un coup, je vous le conseille pas forcément, mais c'est une série où effectivement les épisodes peuvent se suivre sans aucun souci. Comme c'est des épisodes en plus assez courts, vous pouvez en regarder plein d'affilée sans problème. Donc de quoi ça parle? Alors, à sa mort, Eleanor, jouée par Kristen Bell, se retrouve au bon endroit, donc en anglais c'est The Good Place, là où les entre guillemets bonnes personnes se retrouvent après la mort. En fait, c'est une sorte de paradis, mais sans que le mot paradis soit jamais mentionné, ni aucune religion, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Et les autres personnes sont envoyées, eux, au mauvais endroit du coup. Le problème, c'est qu'Éléonore, elle n'est pas du tout une bonne personne dans la vie de tous les jours, et elle découvre très rapidement qu'elle a été envoyée au bon endroit par erreur. Donc ça, c'est plutôt l'intrigue de la saison 1, ça se développe beaucoup par la suite, parce que je trouve que c'est une série qui est justement pas redondante. Alors, j'aime bien cette série, hein, mais je pense par exemple à Prison Break, où voilà, on a une intrigue de la saison 1, et où la saison 2, la saison 3, c'est un peu la même intrigue différente. Là, je trouve qu'il y a quand même, ça se renouvelle bien. Donc voilà, déjà, premier point pour lequel je le recommande. Ensuite, j'ai souhaité parler de cette série parce que ça a été vraiment une réelle surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à autant aimer, alors que au début, ouais, c'est sympathique et tout. Voilà, j'étais dedans. Puis au final, au fur et à mesure des épisodes, je me suis vraiment attachée à cette série. En plus, bon, le fait qu'il y ait Kristen Bell, forcément, ça joue beaucoup. J'adore cette actrice.
Ouais, elle est chouette.
Ouais, en tant qu'actrice et en tant que personne, je sais que je la suis pas mal sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est une belle personne, donc j'aime bien la suivre. Donc The Good Place, c'est une vraie comédie, un peu à la Friends ou How I Met Your Mother, mais avec un fil conducteur. C'est pas juste chaque épisode un micro-intrigue. Là, ça se suit durant toute la saison, toute la série même. C'est très léger, c'est très fun. Les épisodes sont courts, donc ça se regarde facilement, par exemple, devant le petit déjeuner ou devant le goûter. Je dis ça parce que moi, j'adore manger en regardant des séries. Le scénario est assez original et vraiment bien ficelé, avec quelques petits rebondissements là où il faut, quand il faut. Je trouve qu'on a vite envie de savoir la suite et on s'attache au personnage, donc je la recommande. Voilà.
Ouais, moi je pense que je vais continuer. Après, c'est vrai que c'est pas forcément mon genre de série. Format plus court comme ça, très léger, j'ai du mal souvent à accrocher. Mais là, je trouve vraiment très sympa et l'univers est original en fait, enfin, le contexte est original, donc rien que ça, c'est vraiment très très drôle quoi. C'est vraiment
Ouais,
super drôle.
totalement.
C'est un humour très absurde, mais c'est vraiment très drôle quoi.
Et je trouve que ça devient de plus en plus drôle au fil des saisons. Alors, je sais pas si c'est moi qui, comme j'aimais de plus en plus, voilà, peut-être. Ou sinon, c'est vraiment, ils sont améliorés. J'en sais rien. Tu me diras quand tu auras fini.
Donc je continue, mais ouais.
À toi pour la prochaine. Du coup,
Oui.
encore différent.
Ouais, non, c'est clair. Donc là, on va parler de Bodyguard. Donc, je crois que c'est ouais, une série que tu ne connaissais pas, du coup.
Mais non,
Enfin,
mais pas du
si.
tout. Et alors
Ah, en fait.
juste pour la petite anecdote, je viens de voir à la télé, il y a 1 heure avant qu'on enregistre, la pub, elle va passer
Oui.
sur à la télé.
Tout à fait, elle passe sur France Télévisions, je crois, France 2, il me semble. Parce que là-bas, je crois que c'est une série anglaise, je ne sais plus où est-ce qu'elle est passée en premier. Je ne pense pas que c'est une série BBC, mais
Je sais pas.
peut-être. Mais c'est pas une production Netflix à la base, il ne me semble pas. Donc, bref, du coup, Bodyguard, donc pas The Bodyguard, le film hein, que vous connaissez, non, c'est Bodyguard sans
Non,
The.
je connais pas
Et.
du tout non plus.
Oh, mais si, tu connais
Non,
avec
je vois
Whitney.
l'affiche, mais j'ai jamais vu.
Ah, ouais, je le conseille aussi. Bref. Bon, donc, Bodyguard, donc, le genre, c'est plutôt ouais, drame, thriller. Ouais, je pense que je définirais comme ça. C'est une mini-série, donc il n'y a qu'une saison de 6 épisodes. 6 épisodes d'1 heure, donc a priori, c'est fini. À un moment, il parlait de peut-être faire une saison 2, mais c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Donc, ça fait du coup un binge-watchage de 6 heures. Clairement, hein, dans le genre mini-série, c'est un peu un format qui est plus ou moins fait pour être vu d'une traite, mais vous pouvez totalement aussi scinder votre visionnage. Mais vraiment, ça s'enchaîne et vous aurez du mal à arrêter, je pense.
Ah ouais, carrément.
Ouais, ça, tous les épisodes finissent en cliffhanger, je crois, donc...
Ok.
C'est ce genre de série-là. Donc, le pitch, donc ça se passe donc à Londres. Donc, le personnage principal, c'est David Budd, un sergent de police spécialisé dans la garde rapprochée et accessoirement quand même vétéran de guerre traînant quelques PTSD, donc syndrome post-traumatique à cause de la guerre, son expérience dans la guerre. Donc, ce gars-là, David, est nommé garde du corps de la ministre de l'Intérieur, qui est l'ambitieuse Julia Montague. Et en fait, il aura vraiment fort à faire pour la protéger des menaces terroristes qui se font de plus en plus pressantes, tout en passant outre son mépris assez manifeste pour la politique ultra-conservatrice qu'elle défend. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, c'est à cause de sa politique qu'elle se retrouve cible de terroristes. Donc voilà pour l'ambiance. Donc c'est pas léger, hein. C'est pas léger du tout. Mais ouais, du coup, comme je disais, c'est typiquement une série qu'on regarde plus ou moins d'une traite. Je pense que déjà le premier quart d'heure du premier épisode vaut à lui seul que vous vous y penchez. C'est vraiment un modèle de suspense et de tension. Et on peut être que scotché hein, sur son canapé. Et tout au long de la série, il y a plein de scènes comme ça qui sont hyper tendues. Et voilà, il faut avoir quand même. Faut pas être cardiaque, je pense, mais bon. Mais c'est vraiment hyper, hyper bien fait. Autre genre de tension, celle entre David et Julia, évidemment, qui est assez savoureuse. Et on va pas se mentir, les histoires de bodyguard, c'est souvent assez sexy.
Ouais, ça va bien me tenter.
Surtout, voilà, que je n'ai pas mentionné, mais David Budd est incarné par Richard Madden. Donc, voilà.
Et qui est, je crois pas que je connais.
Alors, bon, les fans de Game of Thrones le connaissent en tant que Robb Stark. Mais sinon, il a fait un des lives Disney, il faisait le prince charmant dans Cendrillon.
Ah, je vois.
Et dernièrement, il a fait aussi un rôle assez secondaire, mais dans 1917, il faisait le frère qui essaie de sauver.
Ah voilà. Oui, d'accord. Okay.
Mais moi, ouais, on commence à le voir pas mal à droite à gauche, mais... Mais oui, et là, il est vraiment génial. Il a un accent écossais à couper au couteau dans cette série qui est voilà, très, très sexy. Voilà.
Juste pour préciser à tout le monde, nous, on a l'habitude de regarder nos séries en VO. Donc, tous les avis qu'on donne, c'est des séries en VO. Je sais que souvent, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de regarder un épisode d'une série en VF et de me dire, oh, mais c'est horrible. Et quand je regarde en VO, je me dis, ah, mais en fait, c'est drôle. Du coup, peut-être que voilà, l'humour n'est pas retransmis pareil ou quoi, donc je préférais juste qu'on précise.
Oui, ça. C'est. Ouais. Bah, notamment, là, Bodyguard, les accents sont assez tranchés, donc c'est vrai que c'est pas mal de le regarder comme en VO. Sinon, du coup, sur cette série, bon, il y a quand même un sous-texte politique qui est parfois un peu lourd, c'est un peu le point faible, je dirais. C'est pas forcément toujours super bien amené, mais vraiment, c'est pas l'intérêt principal. C'est vraiment son personnage David qui est vraiment le point fort. L'interprétation de Richard Madden est assez bouleversante. Enfin, c'est son meilleur rôle dans lequel je l'ai vu jusque-là. Et vraiment, la thématique du syndrome post-traumatique et de la dépression des vétérans de guerre est très bien traitée, de manière assez dure. Donc, je mettrais quand même un trigger warning pour les personnes qui peuvent être touchées par ce type de sujet. Parce que il y a des épisodes qui sont très sombres. Donc, voilà. Et aussi... mention spéciale quand même au fait que, à côté du personnage principal qui est masculin, en fait tous les personnages secondaires ou presque, et surtout les personnes de pouvoir, sont des femmes en fait. Et donc c'est assez rare pour être souligné. En fait, j'en étais pas rendu compte tout de suite. Et au moment, je me suis dit, mais attends, mais toutes ces bosses en fait, toutes les supérieures de David, c'est que des femmes. Donc c'est et du coup tous des personnages assez différents. Donc ça c'est intéressant, donc je voulais le souligner. Donc voilà, c'est une histoire du coup complète aussi en 6 épisodes, donc ça c'est sympa quoi.
Très bien, je pense que je vais regarder ça moi, ça me tente, tu m'as convaincue.
Bon, c'est pas léger, hein, mais il n'y a pas trop d'humour là par contre. Hein.
Non, mais c'est vrai que ma sélection, vous allez le remarquer, ça reste quand même beaucoup de comédie. Parce qu'en ce moment, c'est ce dont j'ai besoin, entre guillemets, voilà, avec la situation un petit peu anxiogène dès qu'on allume la télé. Mais j'aime aussi beaucoup les séries. Une de mes séries chouchoutes, j'en avais déjà parlé dans un épisode, c'est Sons of Anarchy, qui est tout, même s'il y a des petites pointes d'humour, qui est tout sauf légère. Mais il y aura une pop story dessus, je ne vais pas en parler là. Mais du coup, ouais, je pense que celle-là, je vais regarder, ça me tente.
Ouais. Non, mais je voulais quand même vous préciser, ouais, que c'est pas. Faut être dans un état d'esprit pas trop. Voilà. C'est pas la pire série que j'ai jamais vue, que j'ai vue, mais ça parle de terrorisme, donc voilà,
Oui, ouais.
ça peut réveiller quelques petits traumatismes, quoi.
C'est sûr.
Voilà.
Bah, du coup, moi, je vais repartir sur une comédie, hein, parce que voilà, faut.
Heureusement que t'es là. Hein,
faut rigoler depuis. Ouais, c'est vrai. Hein. Franchement, on a été hyper. N'empêche, je suis assez impressionnée parce qu'on a été hyper complémentaires. Voilà, je tiens à le dire, on a été hyper complémentaires là-dessus. Et du coup, moi, je vais vous parler de Derry Girls. Donc, Derry comme la ville de Derry, Londonderry, avec le vrai accent français. Donc, comme je l'ai dit, c'est une comédie en deux saisons, avec une saison 3 annoncée, ce qui me met en joie. Il y a au total 12 épisodes de 20 à 25 minutes chacun. Tu remarques qu'en plus, mes séries, à chaque fois, c'est 20 à 25 minutes ou 25 à 30 minutes. Ouais, je sais
moi,
pas pourquoi.
C'est des épisodes d'une heure à chaque fois.
Je t'ai dit qu'on était complémentaires. Donc, la durée du binge-watchage est de 5 heures. Et ouais, ça se fait bien d'une traite. Ça peut se faire. Il n'y a pas de cliffhanger ou quoi, mais quand on commence à regarder, on a bien envie de continuer à regarder. Donc, pourquoi pas. Du coup, de quoi ça parle? Eh bien, on suit les aventures d'Erin et de ses amis, qui sont de jeunes adolescentes qui vivent en Irlande du Nord, dans une des villes les plus marquées par le conflit entre pro-britannique et pro-irlandais, donc Londonderry, ou comme les pro-irlandais préfèrent dire, juste Derry. Et tout ça dans les années 1990. Donc dans une période qui a été vraiment marquée par ce conflit. Même s'il y a encore des traces actuellement, à l'époque, c'était quand même encore plus marqué. Donc moi, pourquoi je la recommande? C'est une de mes séries coup de cœur. Vraiment, Marjo, regarde-la à tout prix.
Mais j'en ai jamais entendu parler, là, je la découvre.
Mais non, mais... Ouais. Et voilà, moi je vous l'ai dit, je vous parle de séries pas connues. Non, vraiment. Alors bon, déjà, moi je suis une grande fan d'Irlande. Depuis que j'y suis allée, j'ai eu un coup de cœur pour ce pays. Et j'ai été du coup à Londonderry et à Belfast. Et c'est vrai qu'en Irlande du Nord, il y a une ambiance quand même particulière. Et quand tu commences à visiter, que ce soit les prisons, enfin des choses comme ça, tu ressens vraiment l'histoire du pays. Donc c'est pour ça que j'ai voulu regarder cette série au départ. Et elle nous plonge vraiment en fait dans la réalité plus sociale de ce bout d'Irlande au milieu du Royaume-Uni. Mais c'est pas une série politique ou sur les enjeux du conflit, pas du tout. On en parle, on parle du conflit, mais on parle pas du tout des enjeux. C'est pas une série axée là-dessus. On suit plutôt en fait le quotidien de ces filles qui vont au collège catholique de la ville réservé aux filles et comment en fait ce conflit il influence leur vie de manière en tant que jeunes en fait. Typiquement un exemple, un moment ils font un échange, je ne sais plus si c'est une sortie, que je l'ai vu il y a un petit moment quand même, je l'ai vu à sa dès que ça sortit, j'ai regardé tout d'un coup. Là, des saisons 2, j'ai regardé tout d'un coup. Et en fait, typiquement, voilà, à un moment, ils vont faire un échange ou une sortie avec un collège protestant de garçons. Et du coup, rien que tu vois la différence un peu protestant-catholique, vu que les Irlandais sont plutôt catholiques, les Anglais, pardon. Je sais plus ce que je dis. Les Irlandais sont plutôt catholiques et les Anglais sont plutôt protestants. Du coup, ça a marqué aussi ce conflit, cette bataille d'Irlande du Nord. Et du coup, rien que de voir des jeunes qui se retrouvent avec leurs différences, mais aussi leurs ressemblances. Et ces filles qui ont l'habitude d'être tout le temps avec des filles, donc qui veulent à tout prix rencontrer des garçons. Mais en même temps, c'est des Anglais, ça va pas. Et c'est très drôle. Et en même temps, c'est pas... dans une série pour ados, généralement, leur problème, ça va être « Ah oui, mais lui, il est sorti avec un tel. Ah oui, mais je vais me faire disputer par ma mère pour telle raison. Ah oui, mais j'ai raté mon bus parce que mon réveil n'a pas sonné. » Là, c'est plus « Ah, mais il n'y a pas de bus parce que l'IRA a fait exploser une bombe sur le pont, donc on est encore coincé, on doit encore y aller à pied. Quelle galère !» C'est plus vraiment des problèmes différents. Et j'ai vraiment adoré. Et puis alors, l'accent. Mais alors, leur accent est incroyable. Alors, avec sous-titres, parce que je comprends pas tout, je vous l'avoue. Parce que là, vraiment, c'est pas possible. Mais un accent incroyable et vraiment beaucoup d'humour, un humour un peu grinçant à la British, des situations cocasses. Enfin, voilà, vraiment très sympa et je te la conseille, mais à 1000%.
Ah, bah ouais, mais carrément. Je vais aller voir ça, c'est sûr.
Ouais. Puis elle est courte, hein, comme je vous l'ai dit, 5 heures. Bon, voilà, une petite après-midi, vous avez regardé tout. Vous n'allez pas en apprendre plus sur le conflit, mais vous allez voir comment les gens le vivaient à l'époque.
Ouais. Non, mais ouais, c'est chouette comme point de vue. Ça change, quoi.
Cool. Et encore une fois, merci maman. Je crois que...
En fait, cet épisode est sponsorisé par la maman de Charlie.
Bah oui, mais en fait, pour tout expliquer, elle va vraiment devoir écouter cet épisode. Pour tout expliquer, elle est insomniaque et du coup, elle passe ses nuits à regarder des séries. Et je pense qu'elle a regardé absolument, je vais pas dire toutes les séries du monde, mais déjà toutes les séries du document, que ce soit Marjo ou moi qui en parlons, elle les a déjà toutes vues. Et c'est ça, à chaque fois que je lui dis « Oh, je viens de voir une pub pour ça, tu connais ?»« Oui, oui, bien sûr !» Donc voilà, c'est assez incroyable. Si vous avez envie d'un conseil sur une série, demandez-nous, on demandera à ma maman, et voilà. Bon, je te laisse enchaîner pour une autre comédie, hein. Tu vois, comme quoi tu parles pas que des choses dramatiques.
Oui, quand même, je me suis dit, bon, il faut que j'en mette une quand même. Et en plus, c'est la seule série française de notre sélection. Bon, c'est pareil,
oui, c'est vrai.
Série à gros succès, 10%. Donc j'ai découvert que c'était sur Netflix parce que bon là c'est quand même une série France 2 à la base, mais du coup j'ai découvert que les trois premières saisons sont sur Netflix et la quatrième est en fait en cours de diffusion en ce moment même sur France 2, donc j'ai pas encore commencé la quatrième mais j'ai vu les trois premières. Donc 10%, donc c'est une comédie. Il y a donc pour l'instant 24 épisodes qui font à peu près 50 minutes, 45-50 minutes à peu près ce format-là. En comptant la saison 4 hein, qui est en cours de diffusion parce que je pense que d'ici que ça finit, que l'épisode sorte, je sais pas combien d'épisodes seront sortis mais pas mal. Donc ça fait à peu près un binge watchage de une vingtaine d'heures à peu près. Donc trop pour voir tout d'un coup mais mais bon, puis c'est pas forcément une série dont on enchaîne 5 épisodes d'affilée, c'est plutôt mais deux épisodes de suite, ça se fait très très bien. Deux, trois, ça se fait très bien. Donc, de quoi ça parle? Donc, c'est le quotidien d'une agence artistique d'acteurs parisienne. Et ça commence juste alors que son fondateur vient de mourir de manière accidentelle. Et du coup, bah, l'avenir de l'agence est en question. Et il y a un peu une guéguerre de succession, quoi. Et donc, la particularité de cette série, c'est que c'est une série chorale, donc avec une galerie de personnages principaux, qui sont les agents de cette agence, et surtout des guests prestigieux, différents à chaque épisode, qui jouent leur propre rôle, en fait. Donc, on a un peu tout le gratin des acteurs et actrices françaises qui défilent dans cette série en jouant leur propre rôle. Donc, rien que pour ça, c'est... Je pense que ça peut intriguer. Est-ce que tu l'as vu, du coup, cette
Oui, je l'ai vu. Ah. Pour une fois. ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu avec Thibaut, mon copain. On a beaucoup aimé. On a vraiment beaucoup aimé. Je crois qu'on n'a pas vu jusqu'au bout. Parce qu'au bout d'un moment, on avait l'impression que c'était un peu toujours... Enfin, pas toujours la même chose, mais je sais pas. On s'est un peu lassé en fait. Je sais pas trop pourquoi. Mais on adorait au début. Vraiment, on était à fond.
Mais c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément une série à regarder, enfin je veux dire 20 heures,
non.
C'est quand même pas, c'est pas une série qui se renouvelle de fou, mais rien que pour la variété des guests, il y a ce côté-là un peu marrant de petits mystères de qui on va avoir dans l'épisode suivant. Et puis tous les guests, ils semblent vraiment beaucoup s'amuser à jouer des caricatures d'eux-mêmes, donc c'est toujours très drôle. Sinon, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le cadre, en fait, des coulisses du cinéma et de la télé. Encore un hashtag passion making-of, même si là, on n'est pas du tout dans les making-of des séries où, en elles-mêmes, mais plutôt de la vie des acteurs, en fait, du quotidien, de comment se négocient les contrats, etc. Donc, j'imagine que c'est... En partie une parodie, mais ça a l'air assez crédible comme traitement, donc c'est sympa. Et voilà, après, comme on disait, les intrigues de fond sont sympathiques, sans plus, quoi. Il y a quand même des arcs, donc les différents personnages principaux ont des arcs qui sont toujours avec quand même pas mal de rebondissements, donc il se passe quand même pas mal de choses qui permettent de garder un peu d'intérêt. Puis derrière sa légèreté, parce que c'est quand même assez léger et très drôle, je trouve que la série quand même aborde plein de thématiques qui sont assez intéressantes, sur l'ambition notamment, puis pas mal aussi sur les inégalités hommes-femmes, en particulier dans le monde du showbiz du coup. C'est assez intéressant la manière dont c'est traité. Tous les personnages sont différents, donc en fait on peut trouver des raisons de s'y attacher ou d'aimer les détester, et ça en général, il y a toujours un moment où un personnage va nous énerver profondément et d'autres moments on va les trouver hyper attachants. Donc ça reste quand même addictif. En général, je trouvais que la plupart des gens que je connais qui ont regardé 10% se sont vraiment pas mal investis dans cette série. Donc voilà, je la conseille vraiment pour tout le monde. Je pense que ça peut plaire à plein de personnes différentes.
Ok, mais moi je vais m'y remettre, c'est sûr que je vais m'y remettre. J'arrête pas de voir les pubs pour la saison 4, là, ça me tente trop. Et ben, je vais enchaîner sur un style qu'on n'a pas encore, dont on n'a pas encore parlé. Une comédie musicale, mais en série. Une série
Oui, c'est
comédie
assez rare,
musicale.
il n'y en a pas tant que
C'est
ça.
rare, hein? Ouais, et qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend. Est-ce que toi, t'en avais déjà entendu parler?
Oui, bah grâce à toi.
Ah, ah oui,
Mais
d'accord.
après, je pense que j'en ai parlé assez tôt, et puis après, j'en ai re-entendu parler quand même, parce que elle a fait quand même pas mal de... Enfin, je sais pas, je sais que j'en ai déjà entendu, peut-être dans des podcasts de séries ou des trucs comme ça, mais en tout cas, j'en ai déjà entendu parler.
Ok. Et bien du coup, c'est aussi une série qui est finie, donc qui était en 4 saisons. Donc il y avait 62 épisodes de 40 minutes environ, et ça fait environ du 42 heures. Bon, alors tout en une fois, c'est pas possible, on est d'accord. Mais par contre, oui, c'est le genre de série, comme ça reste assez léger et que c'est tellement sympa que c'en est addictif. Franchement, oui, finalement, on regarde plusieurs épisodes d'un coup, c'est difficile de s'arrêter à un. C'est vraiment, encore une fois, avec Derry Girls, une de mes séries coup de cœur. Je crois que je me suis fait bah, du coup les 42 heures au moins 3 fois, pour vous dire. Et je suis trop contente de faire cet épisode parce qu'il y a des séries qui sont un peu vieilles, bah, comme celle-là, parce qu'elle, bon, elle n'est pas si vieille, hein, mais elle est finie maintenant, donc on va plus trop en réentendre parler. Et je suis trop contente d'avoir l'occasion d'en parler. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, j'avais fait une pop story dessus, mais c'est pas suffisant, hein, voilà, juste une petite pop story, on est d'accord. Et d'ailleurs, dans la pop story, j'ai mis la bande-annonce avec une musique parce que la musique, elle est trop cool. Et du coup, c'est Marjo, c'est l'occasion de l'en mettre dans le montage. Working hard at a New York job, making dough, but it made me blue. One day I was crying a lot, and so I decided to move to West Covina, California. Brand new pals and new career. It happens to be where Josh lives, but that's not why I'm here. She's the crazy ex-girlfriend.
What? No, I'm not.
She's the crazy ex-girlfriend.
That's a sexist term.
She's the crazy ex-girlfriend.
Can you guys stop singing for just a second?
She's so broken inside.
The situation's a lot more nuanced than that.
C-R-A-Z-Y.
Okay, we get it.
Bon, du coup, de quoi ça parle? On suit la quête d'amour de Rebecca, qui est une jeune avocate ultra brillante, un peu névrosée, qui quitte New York et son job d'avocate renommée du jour au lendemain pour venir à West Covina, une petite banlieue mignonnette de Los Angeles, pour y retrouver Josh, son amour de jeunesse d'il y a 10 ans, un Filipino, très beau gosse, j'avoue. Qui lui s'en fout en fait complètement, qui est complètement passé à autre chose et elle débarque. Et du coup, bah, c'est un peu ça le titre Crazy Ex-Girlfriend, l'ex-copine un peu folle voilà, qui redébarque dans sa vie, qui déménage pour lui alors qu'ils ne sont pas ensemble et qu'ils ne sont pas forcément revus beaucoup. Enfin voilà. Et je viens de percuter que c'est rare d'avoir un Filipino en. Personnage principal dans le sens où d'habitude le beau gosse pour lequel la nana quitte tout c'est le blond surfeur ou le brun ténébreux mais c'est sympa. Bref, pourquoi je la recommande? Alors, comme pour mes premières fois je vais donner ou non c'est on the block je crois, je vais donner 3 raisons principales. La première c'est la musique. Alors effectivement, hein, les personnes qui détestent les comédies musicales, passez votre chemin, ça va pas du tout vous plaire. Il y a une chanson toutes les 15 minutes, donc c'est mort. Désolée. Une autre série vous plaira, vous pouvez zapper. Il y a des performances musicales dans chaque épisode. Chaque numéro, en fait, qui sont la plupart comiques, reprend un rythme ou un style ou un décor d'une chanson d'une comédie musicale, plus ou moins parodique et avec des paroles totalement what the fuck, en fait. Mais alors, typiquement, dans une de la dernière saison... Il y a une chanson sur le fait que tout le monde prend des antidépresseurs. C'est génial les antidépresseurs, c'est génial les médicaments. Sur un air de La La Land avec un numéro de claquette dans la rue. Voilà, c'est pour vous dire, c'est vraiment, on reprend des choses connues. Donc ceux qui connaissent un peu les comédies musicales, c'est hyper sympa de reconnaître un peu les morceaux à droite à gauche. Si vous le connaissez pas, bah on s'en fiche, au final ça change rien du tout. Et les paroles sont vraiment très drôles. Donc voilà, moi je sais que j'écoute souvent la playlist sur Spotify, c'est assez sympa. La deuxième raison, c'est qu'on y parle de tout, mais alors de tout, vraiment. Particulièrement deux sujets. C'est une série qui, malgré son titre, en fait, on peut penser au départ que ça va être une série qui est un peu anti-féministe, entre guillemets, en mode ok, tout de suite, on dit que la fille, elle est folle parce qu'elle va rejoindre son ex. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment une série assez féministe pour le coup. Justement, ils en jouent de ça. Et qui parle beaucoup de la sexualité féminine. Et alors, vraiment, dans ce sujet, mais tout est... Alors, pas que mentionner, vraiment, il y a beaucoup, des débats dessus, etc. Alors que ce soit faire l'amour quant à tes règles, les mères porteuses, l'avortement, des sujets même plus basiques, la masturbation. Vraiment, ils y parlent de tout, de manière assez fun et légère. Hein. Bon, peut-être pas l'avortement, peut-être pas parler de manière fun et légère, mais c'est vraiment bien traité. Et le deuxième thème dont on parle beaucoup, c'est les maladies mentales. Alors, pas trop dans la saison 1, même si on a bien compris qu'il y avait quand même quelques petits soucis, on en parle pas trop, mais au fur et à mesure, la série elle gagne vraiment en profondeur au cours des saisons, et ces thèmes-là, comme la dépression ou la bipolarité ou ce genre de choses, sont vraiment traités de manière sympa, pas anxiogène, mais quand même bien faite, ouais. De manière bien faite.
C'est pour ça que j'en avais entendu parler. C'était,
je pense, oui.
J'en avais vraiment entendu parler pour souligner la manière dont ça traite les sujets de la santé mentale.
Non, ouais. pour une fois, c'est bien fait. Je trouve que souvent moi, quand je regarde, enfin, quand c'est mentionné dans des séries, t'as l'impression, je sais pas, il y a toujours un petit truc qui me gêne. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Et là, pas du tout. Après, on y parle de vraiment, quand je vous dis ces deux thèmes-là sont le plus mentionnés, mais on y parle aussi d'alcoolisme, du poids, des origines, enfin vraiment de plein de sujets divers, mais toujours du coup en comique, hein, parce que c'est vraiment une comédie. Mais il y a des passages plus sérieux. Et ça rend super bien, vraiment, c'est hyper intéressant. Et la raison numéro 3, bon, j'arrête pas de le dire, hein, mais c'est l'humour. Parce que c'est sûr que si on parle de tous ces sujets sérieux, on ressort de là avec le moral plombé, c'est pas du tout le but. C'est non seulement fait de bonne manière, avec intelligence et tout, mais avec beaucoup d'humour. Les personnages sont très drôles. Alors il y a des moments où on a envie de les détester, hein. Typiquement Rebecca, il y a des moments où on se dit, mais elle est complètement folle, mais pourquoi elle réagit comme ça, mais, et on la déteste pour ce qu'elle fait. Et puis après, il y a vraiment ce côté aussi analyse de soi-même, où du coup la personne se dit, ah ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ah mince, ah ouais, d'accord, ok, j'ai peut-être un problème en effet, ou pas, ou... C'est vraiment bien fait, j'ai pas envie d'en dire trop, mais c'est vraiment une série qui est féministe, qui est comique, qui a à voir de toute urgence, et il y a un super super article sur le site Mademoiselle, le site internet dessus, qui en parle, et si vous n'êtes pas totalement convaincu encore, même si j'espère vous avoir convaincu beaucoup, allez voir cet article, il est vraiment bien fait et je trouve que ça rajoute une petite touche du pourquoi tout le monde devrait voir cette série.
Très bien. C'est vrai que le 62 épisodes, 42 heures de visionnage, ça fait un peu peur, mais...
Je sais. Je sais. C'est triste. C'est ça le problème. Après, moi, j'ai commencé à regarder quand la saison 1 est sortie. Oui. Et donc, j'ai suivi vraiment épisode par épisode et les 4 saisons. Et... Donc, je sais que ça, là, c'est dur, c'est beaucoup. Mais il faut lui donner une chance. Il faut regarder au début et je pense qu'on accroche après. Et du coup, la dernière série de Netflix dont on veut parler.
Enfin, qui n'est pas une production Netflix à la base, hein. C'est une série anglaise, je ne sais plus sur quelle chaîne elle a été diffusée à la base, mais en France, elle a été diffusée sur Arte, je crois. Mais maintenant, elle est disponible sur Netflix. On l'a regardée toutes les deux et on la suit toutes les deux avec assiduité. Et donc là, on va être obligé de mettre le générique avec l'annonce du titre « Peaky Blinders ». Ships and crack
where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
Oh là là, c'est générique. J'en suis fan. Ça me donne des frissons à chaque fois.
Eh oui.
Du coup, c'est une série de genre drame historique. Il y a 5 saisons. Une 6e a été annoncée, mais le tournage repoussé du... Bah, ah, vous savez quoi ? Encore ? Et du coup, au total, il y a 30 épisodes d'une heure chacun, donc ça fait 30 heures. Bon, je ne la conseille pas spécialement en binge-watchage, mais c'est tellement addictif que dès qu'un épisode est fini, on a envie de mettre la suite, hein, qu'on soit d'accord.
C'est vrai.
Du coup, de quoi ça parle ? Bien, d'une famille de gangsters, donc les fameux Peaky Blinders, qui existaient réellement, en fait, qui tentent de s'élever afin de contrôler un peu plus leur quartier à Birmingham, en Angleterre. Et c'est juste après la Première Guerre mondiale, si je me souviens bien.
Ouais, c'est ça.
Du coup, bah, moi, je la recommande parce que ça traite déjà d'une période qui est un peu méconnue. On y parle de pauvreté, du communisme, des grèves, du conflit en Irlande. Moi, j'étais trop contente quand tu parlais de ça, bien évidemment. Et tout en suivant une famille qui est badass. Enfin, là, franchement, cette famille, mais oh, ça a beau être des gangsters. Moi, j'ai envie d'en faire partie, quoi. Quand je les vois tous, ils me vendent du rêve.
Oui, je ne sais pas si j'ai envie d'en faire partie, mais oui, non, ils sont hyper, hyper charismatiques tous. Et surtout, évidemment, le personnage principal, Tommy Shelby, qui est incarné par Cillian Murphy. Donc voilà, je pense qu'on est toutes tombées amoureuses de Cillian Murphy. Bon, moi, c'était déjà un acteur que j'adorais vraiment, vraiment, mais qui avait rarement eu des rôles principaux. Mais moi, j'avais découvert dans un film sur l'Irlande, sur
Le vent se lève.
J'adore ce film.
Ah, il m'a brisé le cœur ce film, mais
ah, mais j'ai fait
bien.
Pleurer, hein.
Je l'ai jamais revu d'ailleurs. Je l'ai vu une fois, je me suis dit, j'arriverai jamais à le revoir.
Pareil, j'avoue, pareil, je ne vais pas mentir. Il a aussi joué dans Batman.
Oui, mais il a un rôle quand même assez secondaire. Il faisait le méchant, il faisait l'épouvantail que Batman Begins. Puis on le retrouve un peu dans le dernier, je ne sais plus. Oui, on le retrouve dans le dernier, ouais. Dark Knight Rises. Mais là, vraiment, c'est lui hein, qui est le cœur de la série. Et tout tourne autour de lui et c'est... Il a un charisme de taré, quoi.
Ouais, non, complètement. Il joue super bien. Il est incroyable.
Mais tout le casting est vraiment chouette. Il y a plein de personnages qui sont hyper forts et vraiment hyper intéressants, avec des arcs en plus narratifs qui changent d'une saison à l'autre et qui les rendent vraiment hyper intéressants. Et du coup, c'est vraiment un autre gros, gros point fort, toute cette galerie de personnages. Et sinon, visuellement, quoi, la série, elle est juste sublime. Alors, très esthétisante. Alors, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais vraiment, ça joue beaucoup sur... ça fait quasiment des tableaux, parfois, à l'image. Et aussi, au niveau de la violence, en fait, c'est traité de manière un peu... Bon, des fois, très crue et très crade, mais parfois aussi un peu esthétisant, quoi.
Ouais.
Donc, mais voilà, c'est une violence quand même assez dure, donc ça peut en rebuter certains. Mais, donc, à savoir. Mais, ouais.
Tu sais que du coup, ça me fait penser ce côté justement très esthétique, très dans le visuel. Ça me fait penser un peu à The Mandalorian. J'ai eu un débat ce matin avec Thibaut et il me disait « Oui, c'est très beau, mais c'est pas mon truc. » Et je dis « Oui, effectivement, ce côté en fait très esthétique, très un peu... ouais, il y a des scènes comme des tableaux. Bah, faut aimer. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve ça génial. Je trouve justement que ça donne de la qualité à la série.
Ouais, moi aussi j'aime beaucoup, mais c'est pour ça que je le mentionnais, parce que c'est pas forcément un critère positif pour des... Enfin, moi ça me suffit en fait, genre on me met un truc très beau, je suis contente, tu vois, mais c'est vrai que pour certaines d'autres personnes, fait, ok, et alors ça, je veux du sens.
Et du coup, dernier point pour lequel on vous recommande fortement sa série, on en a un peu parlé, c'est la bande-son. Franchement, elle est excellente. Pour moi, c'est un des points forts de la série. Bon, déjà, on a parlé du générique, qui est waouh. Mais même la musique, de manière générale, est toujours bien placée au bon endroit, toujours sélectionnée avec soin. Elle est incroyable.
Il y a peu de musique, genre au sens premier de la bande originale, c'est vraiment plus des playlists en fait, de musique déjà existante qui sont réutilisées, parfois remixées, parfois des reprises, mais c'est vraiment très 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 bon.
Ouais. Et du coup, maintenant qu'on vient de finir sur Netflix, on va passer sur une autre plateforme où on a un peu moins de séries. Je pense que Netflix, c'était quand même notre plateforme la plus utilisée.
Ouais.
Et on va passer sur Prime.
Oui, que je n'ai jamais eu, mais en fait, il y a plein de séries sur Prime que soit j'ai vues quand elles étaient ailleurs, sur d'autres plateformes, soit que j'en ai tellement entendu parler que j'ai trouvé des moyens d'aller regarder.
Des moyens illégaux, tu veux dire? Vas-y, je te laisse commencer pour la première.
Mais la première, je l'ai regardée de manière totalement légale, puisque
c'est
Black Sales, qui était sur OCS à la base. Et d'ailleurs, j'étais un peu triste qu'il soit plus sur le catalogue OCS, parce que je pense que je vais finir par m'acheter les DVD, parce que c'est vraiment une de mes séries. Enfin, je l'adore, cette série, et j'aimerais vraiment me la refaire. Donc, c'est une série du genre aventure, qui a 4 saisons. C'est une série finie depuis quelques années aussi, donc c'est pareil, je suis contente de pouvoir en parler, parce que je pense qu'au final, même si elle a son public de fans, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont passés à côté. Mais donc, c'est 4 saisons, donc avec 38 épisodes, les longs épisodes hein, de 50 minutes, donc ça fait quand même 32 heures de binge-watchage, donc ne pas faire d'une traite. Mais et puis chaque là je conseille plutôt de scinder par saison en fait, parce que chaque saison a un peu son ambiance, et puis mais c'est vrai que il y a pas mal de cliffhangers, donc je pense que ça donne envie d'enchaîner quand même. Donc de quoi ça parle? Donc c'est une série de pirates, comme vous pouvez peut-être vous en douter dans le titre, Black Sails. Donc ça se passe dans les Caraïbes pendant l'âge d'or de la piraterie, et en fait on suit les aventures du capitaine Flint. Pour ceux qui ont lu L'île au trésor de Stevenson, en fait, c'est un personnage fictif, un pirate fictif qui est mentionné dans L'île au trésor. Donc, il y a d'autres personnages en fait, qui sont tirés de ce roman-là, mais ça a été vendu comme un préquel à L'île au trésor, donc ce qui se passe avant L'île au trésor, mais en vrai, pas du tout besoin d'avoir lu le livre ou quoi, c'est vraiment. Ça n'a rien à voir, quoi. Il y a des intrigues propres à la série, quoi. Mais du coup, on croise aussi des pirates historiques donc, qui ont vraiment existé, comme Jack Crackham, Anne Bonny, Charles Vane. Il y a vraiment croise Barbe Noire aussi. Enfin, c'est vraiment toute la clique, quoi, des pirates, des grands pirates de cette époque. Et donc, bon, c'est tout ce qu'on peut s'attendre dans des aventures de pirates. Donc, c'est course au trésor, abordage épique, Rome. Voilà, la vie de pirate, quoi. Tout ça à Nassau, évidemment, donc la fameuse ville libre gérée par les pirates pendant un certain temps. Donc, pourquoi je la recommande, cette série? Déjà parce que c'est une série qui a une fin, et surtout une belle fin. Ils n'ont pas raté la fin, donc ça fait plaisir. Et donc, c'est produit par... À la base, c'était produit par Starz, à qui on doit Outlander. En fait, et je le mentionne parce que je pense que c'est vraiment dans le même, c'est le même genre de série au niveau de la qualité visuelle, des costumes et l'immersion historique. C'est vraiment, il y a une reconstitution historique qui est assez crédible, assez bien. Ça a beau être pirate, aventure et tout ça, ça reste assez crédible en fait dans la reconstitution. Et surtout, c'est aussi le même compositeur pour la musique, Beer McCreary. Et la musique de Black Sails est absolument géniale, comme musique d'Outlander, hein, c'est un très bon compositeur, donc vous pouvez s'en douter. Et donc encore une fois, c'est clairement une série dans la catégorie violente, hein, même très violente. C'est un peu du Game of Thrones version pirate, je dirais, pour à la fois le sexe, la violence, mais aussi pour la dimension jeu de pouvoir qui est quand même au cœur des intrigues aussi. Au-delà des aventures, il y a aussi beaucoup de questions de pouvoir politique, de pirate, quoi. Et quand même aussi un gros point fort, c'est que j'avais jamais vu, même au cinéma, des batailles navales et des abordages en fait aussi réussis, quoi, aussi prenants. C'est, on n'en a pas à tous les épisodes quand même, parce que c'est, j'imagine, c'est un gros budget pour faire ce genre de séquences, mais il y en a dans toutes les saisons, c'est sûr. Et c'est vraiment hyper bien fait, quoi. Visuellement, c'est impeccable, quoi. Autre point fort, mais qui peut pas plaire à tout le monde, c'est les dialogues. Donc en fait, c'est souvent, il y a souvent des scènes assez bavardes avec des longs dialogues, des longs échanges, mais qui sont quasi philosophiques en fait. J'ai trouvé vraiment très très bien écrit et c'est ouais, moi j'aime beaucoup hein, quand tu as deux personnages qui se mettent à débattre comme ça. Ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi je trouve que c'est un point fort pour moi en tout cas. Et sinon, bah, les personnages, en tête le capitaine Flint qui a un charisme fou, qui est joué par le fils de Maggie Smith, petit fun fact, mais qui est vraiment génial. Et aussi, je voulais mettre une mention spéciale pour John Silver. Tout série confondue, c'est un des personnages dont l'évolution m'a le plus impressionné. Et il a un arc vraiment hyper, hyper intéressant. Et quand même aussi, malgré tout ce monde de brutes, il y a quelques très beaux personnages féminins aussi. Donc voilà, je la recommande chaudement pour tous ceux qui veulent partir à l'aventure ambiance pirate.
Mais moi, elle me tente trop cette série. Hein. Je l'avais, encore une fois, merci maman, ma mère me la recommande depuis un moment. J'allais la regarder, mais suite à une dispute avec le service client d'Amazon, je me suis désabonnée de Prime de nerf en me disant « Ok, si vous voulez jouer comme ça, je me désabonne. » Et elle a parlé « Mais non, Madame Charline, ne faites pas ça !» Je dis « Si, je le ferai !» Du coup, je l'ai fait. Ce qui, maintenant, eux s'en moquent complètement, qu'on soit d'accord entre nous. Et moi, je me retrouve juste sans Prime, mais je pense que je vais finir par me le remettre un jour si le confinement se prolonge trop ou à Noël, je ne sais pas. Je reprendrai un mois quand ils auront oublié que j'avais soutenu bec et ongle que je me réabonnerai pas. Je regarderai. Voilà.
Mais vraiment, c'est une très très bonne série. Alors, peut-être des saisons qui sont un petit peu moins bonnes que d'autres, mais le début est très très bon, la fin est très très bon. Elle est très très bonne et peut-être qu'il y a juste une saison qui est un petit peu en dessous, mais vraiment dans l'ensemble, c'est du haut niveau.
Du coup, prochaine série, une série comédie dramatique qui est The Bold Type. Donc il y a 4 saisons, une saison 5 a été annoncée, alors la saison 4 a été interrompue brutalement sur un cliffhanger qui n'était pas prévu. À cause du Covid. Donc, du coup, on attend de voir un peu ce qui va y avoir pour la saison 5, si elle va pouvoir se tourner correctement ou pas. Donc voilà, on est en attente. Mais en attendant, il y a 46 épisodes de 42 minutes chacun. Et ça fait environ 32 heures. Donc bon, peut-être pas à tout regarder d'un coup, parce que ça va peut-être devenir un peu ennuyant, même si la série est très sympa et que je la recommande. Mais voilà, enchaîner 2-3 épisodes, ça se fait bien. Donc de quoi ça parle ? Eh bien, la série suit les carrières, amitiés et amours de 3 jeunes femmes qui travaillent pour un magazine féminin new-yorkais qui a été fortement inspiré par Cosmopolitan. Du coup, on a Kate qui est responsable des réseaux sociaux, Jen qui est désormais rédactrice et Sutton qui travaille au département mode. Et du coup, voilà, on va suivre ces 3 adultes dans leur vie, leurs amours, leurs amitiés, leur carrière, etc. Et puis, entre autres, comme Jen est rédactrice, les thèmes qu'elle va aborder du coup dans le magazine. Donc pourquoi je la recommande ? Vous allez rire, mais c'est parce que c'est encore une série féministe. Alors vous l'avez remarqué, moi j'aime bien ça. Mais pour ceux que le mot fait peur, j'espère que vous n'êtes pas nombreux quand même, hein, parce que je rappelle, c'est uniquement l'égalité, hein, féminisme. Mais je sais que voilà, ce mot fait peur. Donc, en fait, ce sont juste quand je dis séries féministes, c'est juste que c'est des séries qui, pour moi, parlent plus à notre génération par rapport à des séries ou des films qui peuvent avoir des discours pas forcément qui reflètent notre vie, en fait. Et du coup, je dirais que c'est plus une série moderne, voilà, on va dire. Donc, c'est une série assez légère, un peu à la Gossip Girl, avec un casting quand même plus diversifié et, du coup, typiquement, comme je dis, des sujets plus modernes.
les discussions, ça va pas être du qui couche avec qui sort avec qui, mais lui, il m'a trompé, mais mon ami, elle m'a trahi. Pas du tout, c'est plus des sujets comme la culture de viol, le fait de vivre en tant que femme musulmane lesbienne, par exemple. À un moment, il y a une des protagonistes qui va parler de faire congeler ses ovocytes pour pouvoir avoir des enfants plus tard. Enfin, voilà, c'est des thèmes comme ça qui sont abordés, mais la série reste une série vraiment... voilà, on suit leurs amours, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... C'est une série très sympa qui se laisse vraiment regarder comme ça, mais je trouve même plus agréable que des séries comme Beverly Hills, parce que justement, c'est des sujets qui nous parlent plus, en fait, qui sont plus d'actualité.
Cool.
Ouais. Typiquement, je voulais juste revenir sur le passage culture du viol. À un moment, elle fait un article, il parle d'un article, alors j'ai vu cet épisode il y a longtemps, donc je vais essayer de pas trop, de m'en souvenir sans trop modifier, mais... Typiquement, il parle d'un article où un garçon voilà, n'acceptait pas trop le oui, le non, pardon. Et en fait, un de leurs meilleurs amis qui travaille au journal se rend compte que dans l'article, c'est de lui dont on parle. Et quand il le raconte aux filles, il dit « Mais pour moi, non, c'était normal, j'avais pas de comportement mauvais. » Et les filles essaient de lui expliquer que si. Et en fait, ce débat du... bah pourquoi est-ce que si tu ouais. te comportes comme un peu comme un harceleur, pourquoi est-ce que pour une fille elle ose pas dire non clairement et que ce qu'elle te dit là c'est un non, et le mec qui dit bah non, moi j'insistais parce que je pensais que je pouvais peut-être que c'était du non, oh je me fais un peu désirer mais gentiment, mais j'ai pas non plus je l'ai pas pris par la main en mode vas-y, et du coup c'est voilà, c'est des débats comme ça qui sont assez intéressants et assez d'actualité.
Ouais, non, c'est chouette. Ça a l'air cool en tout cas. Bon, après, encore une fois, c'est pas le genre de série que je regarde habituellement, mais c'est cool que voilà, les séries qui peuvent voilà, qui parlent de magazines féminins, new-yorkais, tout ça, bah, qu'on puisse vraiment aborder ces sujets-là et les poser de manière, ouais. de manière directe.
Quoi. Ouais, c'est totalement cool.
Alors, la prochaine, c'est une série, encore une fois, qui a ses fans, hein, un gros public. Je pense qu'elle est assez connue maintenant. C'est This Is Us, qui est donc une série comédie dramatique, je pense.
Ouais.
Je ne suis pas trop sûre, mais je pense que c'est ça. Qui a 4 saisons. La saison 5 est en cours, elle vient de commencer. Je n'ai pas encore regardé les premiers épisodes. Pour l'instant, ouais, y a 72 épisodes de 42 minutes. Donc, c'est massif. Ça fait un binge-watchage de 50 heures. Donc, non, c'est très, très long parce qu'en fait, les épisodes sont longs et les saisons sont longues. Donc, beaucoup de contenu, quoi. Mais voilà, c'est à regarder à votre rythme. Peut-être pas tout d'un coup parce que ça ferait beaucoup, mais voilà. Donc, la série, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, ça retrace en fait la vie de la famille Pearson sur plusieurs époques en fait en parallèle. Donc, en gros, c'est leur joie, leur drame, leur moment de bonheur, de solidarité ou de dispute. Enfin, c'est le quotidien, quoi, avec tout ce qui est arrivé et ce qui arrive à cette famille. Donc, pourquoi je la recommande ? Elle est connue, cette série, pour faire pleurer à peu près tous ceux qui la regardent. Vous dites, mais c'est un bon point, ça, ou pas ? Parce que tout le monde n'a pas forcément envie de pleurer devant des séries, mais ça fait du bien, en fait, de pleurer devant cette série. J'essaie d'expliquer pourquoi, mais ça rentre quand même, pour moi, dans la catégorie feel good, en fait. Et c'est vrai que c'est émotionnellement très fort, et presque à chaque épisode, c'est fait pour nous faire pleurer, quoi, c'est clair. Mais en fait, on se sent quand même immédiatement comme si on fait partie de cette famille Pearson, en fait. On peut vraiment s'identifier aux personnages qui sont tous très différents, qui ont tous leurs névroses, leurs qualités, leurs défauts, mais ils sont vraiment très, très humains, quoi. Et certes, c'est une série qui est pleine de bons sentiments, donc ça peut être un peu too much pour certains parfois, mais moi, je trouve que c'est très bien... Ça reste quand même pas niais, quoi. Et aussi parce que ça aborde vraiment de manière assez frontale toutes les problématiques qu'on peut imaginer de la société américaine, mais pas que, hein, c'est assez universel quand même comme type de sujet. Mais je pense que tout le monde, en fait, y trouvera un sujet qui le touchera personnellement, et ça peut faire un bien fou, en fait, de voir représenter quelque chose qui nous touche et du coup qui nous émeut, mais ça fait du bien. Donc préparez vos mouchoirs, mais je la conseille chaudement, quoi.
Tu sais que j'ai vu la saison 1.
Ouais.
En fait, je l'ai regardé quand elle sortait, donc épisode qui sortait chaque semaine. Et j'ai arrêté parce que ça me rendait très triste. Donc
Ouais.
la saison 1, on comprend ce qui va se passer. Et en fait, j'arrivais pas à me dire, ah, c'est aujourd'hui que sort l'épisode. Et j'étais trop triste à l'avance.
Oui.
Et du coup, j'ai arrêté à cause de ça. Mais je pense que maintenant que je... Enfin, parce que c'était la saison 1, c'était il y a un petit moment quand même. Maintenant que je suis plus forte émotionnellement, mentalement, je sais que j'avais vraiment quand même beaucoup aimé. Donc je pense que je me la referais.
Mais c'est vrai qu'elle est... Enfin, voilà. Enfin, comme des sujets sont traités de manière très émotionnelle, enfin, si c'est des sujets qui nous touchent, pas bah, forcément, c'est... Enfin, moi, je sais qu'il y a des fois, ouais, ça m'a vraiment fait... C'est probablement la série qui m'a fait le plus pleurer à chaudes larmes et qu'après un épisode, je mette bien une demi-heure à m'en remettre, quoi. Mais je sais pas pourquoi, je la trouve quand même... Enfin, c'est cathartique, je sais pas si c'est le bon mot, mais... Ça permet de faire sortir les émotions, quoi. Et
Ouais.
parfois, ça fait du bien, quoi. Mais effectivement, pas tout le temps. C'est pour ça la saison 2, la saison 5 qui vient de commencer. Il me faut un petit peu de courage quand même pour la commencer parce que je me doute un peu comment ça va commencer. Et du coup, je suis genre, ouais, ok, bon, faut que ce soit un moment où ça me dérange pas
Ouais, de pleurer, d'être
voilà.
triste.
C'est ça.
Bon, moi je vais repartir dans une comédie.
Oui.
Bon, c'est une comédie dramatique, mais c'est plus drôle que drame. C'est The Marvelous Mrs. Maisel. C'est une série où il y a 3 saisons déjà. La saison 4 a été annoncée, mais repoussée encore une fois à cause de vous savez quoi. Et on n'a aucune info du coup sur une date de sortie, sur de quoi ça va parler, rien du tout. Pour l'instant, il y a 26 épisodes qui durent entre 45 minutes et 1 heure, donc ça fait environ 25 heures. Alors moi, quand j'ai démarré, je les ai un peu enchaînés les épisodes, donc parce que c'est vrai que ça a un côté très addictif. Mais bon, tout regarder les 3 saisons d'un coup, peut-être pas quand même.
Ouais.
Mais sinon, oui, ça se laisse bien voir d'affilée.
Ouais, moi je m'étais enchaînée toute la première saison, je crois,
Ah
d'une
bah tu
traite.
vois.
Ouais.
Du coup, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Myriam Maisel, qui est une mère au foyer juive vivant dans un super bel appartement new-yorkais en 1958, qui du jour au lendemain se fait quitter par son mari après lui avoir avoué une liaison. Mais elle se découvre un talent pour la comédie stand-up et se lance dans cette carrière un peu particulière, surtout dans ces années-là en tout cas, à l'insu de sa famille. Et alors, pourquoi je la recommande? Mais qu'est-ce que c'est drôle en fait?
Oui.
C'est vraiment drôle. Et c'est pas drôle à des situations, c'est drôle les dialogues. Les dialogues, les sketchs de stand-up, ils sont hyper bien écrits. Vraiment, moi j'ai été impressionnée par ça. J'adore aussi le fait que ça se déroule à New York, parce que c'est une de mes villes coup de cœur, dans les années 50. Donc voir leur tenue, leur vie à cette époque-là, j'adore. J'ai adhéré tout de suite. Pour information, la série, elle a été acclamée par la critique. Ils ont obtenu notamment 2 Golden Globes en janvier 2018, celui de la meilleure série comique ou musicale, donc la comique dans l'occurrence, et de la meilleure actrice dans une série comique pour Rachel Brosnahan, je ne sais pas trop comment on prononce,
Je sais pas non plus.
qui
Brosnan,
joue du coup
Brosnan.
Myriam Maisel.
Moi j'avais bien accroché aussi. J'ai toujours pas regardé la saison 3, je crois. Mais ouais, tu me l'avais chaudement recommandé et je crois que tu me l'avais recommandé pile au bon moment où j'avais envie de regarder ce genre de série et j'avais vraiment beaucoup beaucoup accroché.
Super, je suis contente quand mes recommandations marchent. Non, mais on sait jamais, tu sais, des fois on peut ne pas adhérer aux mêmes séries.
Oui.
Mais cette série, je sais la recommander à qui. Enfin, je sais que globalement on peut la recommander. Soit tout de suite on se dit, ah, oh, une femme qui fait du stand-up dans New York des années 50, ok, ça va me plaire. Et là je sais que ça va plaire à la personne. Si quelqu'un qui est pas du tout tenté par le pitch, bon, bah ça sert à rien de se lancer dedans, quoi. Mais ça reste quand même une
Ouais.
très très bonne série et effectivement elle a bien marché.
Alors j'enchaîne sur là une série hyper classique culte, je dirais même, qui est finie depuis déjà un bon moment. Donc c'est presque une série historique maintenant, et c'est justement un drame historique. Donc évidemment, enfin évidemment, non, vous pouvez deviner encore, mais c'est Downton Abbey. Et je ne savais pas du tout qu'elle était sur Prime maintenant, mais vous pouvez sûrement la retrouver sur des chaînes de la TNT, elle est souvent diffusée, je sais plus sur quelle chaîne, mais ça arrive quand même. Tout voilà. Quand j'ai vu qu'elle était sur Prime, je me suis dit, ah bah tiens, oh, je vais en
L'occasion
profiter.
pareil.
J'aurais probablement pas d'autre occasion de parler de Downton Abbey, donc pardon, de Downton Abbey. C'est 6 saisons de 52 épisodes, non, 52 épisodes en tout. C'est des longs épisodes, hein, 50 minutes environ, donc ça fait à peu près 43 heures de série. C'est beaucoup et c'est très long à regarder parce que c'est pas vraiment du binge-watchage, hein, pour Downton Abbey. C'est faut se poser, c'est plutôt une série pour se poser en un après-midi. Vous pouvez s'en regarder quelques-uns, mais je pense pas que ça soit une série dont qu'on va tout regarder en quelques semaines, quoi. Donc, de quoi ça parle ? C'est la vie d'une famille aristocratique anglaise dans son magnifique manoir qui s'appelle Downton Abbey. Et l'intrigue commence en fait juste après le naufrage du Titanic en 1912. Et en fait, au fil des saisons, ça se poursuit jusque dans les années 20. Donc, j'ai repensé avec Peaky Blinders, il y a du coup des périodes qui se chevauchent en fait, mais ça n'a rien à voir comme ambiance. Et en fait, on suit en parallèle aussi la vie des domestiques de la maison et toute cette organisation très hiérarchique et aussi déjà vaguement archaïque, même à cette époque, dans un contexte d'un monde qui est vraiment en train de changer. On sent la modernité arriver et cette famille un peu conservatrice qui est au milieu de tout ça, quoi. Et donc, pourquoi je la recommande ? Bon, comme j'ai dit, c'est une série culte que j'associe vraiment toujours à des visionnages à l'automne ou pendant l'hiver, sous un plaid avec un chocolat chaud. Pour moi, c'est vraiment une série doudou, en fait, avec une ambiance très cosy, très feutrée, on ne peut plus british. C'est vraiment... Ouais, encore une fois, c'est une série un peu comme The Crown, devant lequel je me sens bien, quoi. Bon, les intrigues sont parfois un peu soap, en fait, hein, c'est... un peu à base de scandales, d'intrigues amoureuses à rebondissements, problématiques propres en fait aussi à ce monde aristocratique qui est un peu à part. Donc voilà, c'est pas forcément pour la qualité d'intrigues à suspense que je leur recommande, mais tout ça en fait c'est traité quand même avec une certaine élégance en fait qui est assez irrésistible en fait, je trouve. Bon, les costumes sont à tomber par terre. Évidemment, le cadre de ce grand manoir, c'est somptueux. Et quand même, il y a un sous-texte politique qui s'immisce, parfois même de manière assez frontale. On parle d'Irlande à un moment. On parle d'Irlande du Nord. Ouais. Parce que c'est un peu au cœur de l'actualité. Il y a un personnage irlandais dans cette série, dans les domestiques. Donc voilà, ça peut être un critère.
Mais je l'ai vu au début. Hein.
Ah!
J'ai vu les deux premières saisons.
Bah du coup, tu l'as vu alors, ce personnage, je crois.
Sûrement. Mais en fait, j'ai vu il y a longtemps, du coup. Mais j'ai arrêté parce qu'il y a des personnages que je détestais et ça m'énervait. Voilà.
Ouais, non, c'est vrai que tous les personnages sont pas... Enfin, il y en a certaines qui sont quand même un peu des caricatures, donc ça va avec le côté soap, en fait. Hein,
Oui.
Mais du coup, il y a quand même toute cette problématique de cette société qui est vraiment profondément inégalitaire, en fait, qui n'est pas totalement passée sous silence, même si dans l'enrobage, on peut dire oh, ça fait un petit peu nostalgie, tout ça. Mais pas que, quoi. Ça reste très soft et poli, mais ça aborde quand même pas mal de sujets. Et surtout, je ne peux pas ne pas mentionner que c'est un des rôles les plus emblématiques de Maggie Smith, de Dame Maggie Smith, dans la mythique Lady Violet Crawley, donc, qui rien qu'à elle seule mérite le détour.
C'est vrai. Moi, c'est vrai que j'étais vraiment à fond dedans, j'ai adoré. Et il y avait une ou deux personnes, mais alors j'ai vu il y a tellement longtemps, je ne saurais plus vraiment qui c'est, mais que j'aimais pas du tout, mais qui m'énervait au plus haut point. Et je me suis dit, bon, si tu commences à regarder une série et que tu t'énerves toute seule devant ta télé en hurlant, ça ne sert à rien, passe à autre chose, trouve-toi une autre série. Non, c'est ça. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça autant à cœur. Hein. Alors là, vraiment, je ne comprends pas. Avec le recul, je ne comprends pas moi-même, mais bon. Et du coup, j'ai arrêté, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup et toutes les personnes que je connais qui ont vu cette série ont adoré. Donc...
Oui, et il y a un long métrage maintenant. Ils ont sorti il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, un film au cinéma. Et je crois qu'ils parlent déjà d'en faire un autre, une suite. Donc,
Et tu conseilles le film à ceux qui n'ont pas vu la série ou pas ?
Oui, je pense que oui. C'est une histoire qui se tient dans le film, hein, mais évidemment, je pense que c'est principalement adressé aux fans de la série. Mais le film en lui-même est sympa. Là, dans le style de plein de films anglais. Hein, il y en a plein, en fait, dans ce style-là, hein, qui parlent en parallèle des domestiques et des aristocrates, etc. Mais du coup, oui, c'est sympa, quoi. Mais c'est totalement dans le même style, le même ambiance que la série, quoi.
D'accord, super. Alors, moi, je vais vous parler maintenant, la dernière série sur Prime, si je ne me trompe pas,
ouais,
de Little Fire Everywhere. Little Fires, il y en a plusieurs, pardon, Everywhere. qui n'est pas une comédie. Ouh, je parle d'une série qui n'est pas une comédie, notez-le bien. Qui est plutôt du genre même drame. Drame, ouais. Bah, je crois qu'on dit comédie dramatique quand même si c'est pas du tout comédie. Mais bon, vous avez compris un peu l'esprit.
C'est, oui.
Donc c'est une mini-série, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une saison et que c'est fini. Il n'y en aura pas plus. Enfin, je ne pense pas, c'est pas prévu, c'est pas annoncé. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une suite. Donc il y a 8 épisodes d'une heure chacun. Alors en binge-watchage, ça fait 8 heures et donc c'est parfait. Moi vraiment, je vous le conseille d'une traite, c'est parfait. Tu l'as vu toi, non? Je crois pas.
Non, pas du tout, non. Je n'ai jamais entendu parler, là, je crois.
Bah, alors, moi j'en avais vu des... Je crois que c'est parce que... Donc, je spoil tout de suite. Je suis Joshua Jackson sur les réseaux sociaux, qui est Percy dans Dawson. Et du coup, il avait mis une photo. Et je suis aussi Reese Witherspoon, qui joue dedans, donc qui est assez connue. La Revanche d'une Blonde, par exemple, un de ses films les plus cultes. Et qui avait mis des pubs, du coup, sur Instagram. Donc, j'avais vu comme ça. Et encore une fois, c'est ma maman qui l'a vu et qui m'a dit « Charline, tu vas adorer !» Voilà. Donc, comment je me suis mise à regarder cette série. Il n'y a pas longtemps, hein, je l'ai regardée la semaine dernière, pour tout dire. Du coup, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de deux mères de famille que tout oppose dans une petite ville de banlieue en 1997. Alors, d'un côté, on a Mia, la mère célibataire, artiste, avec sa fille Pearl, qui viennent d'arriver dans le quartier. Et de l'autre côté, on a Elena, la mère de famille, qui est journaliste à mi-temps, qui en apparence semble être un peu la mère de famille parfaite, idéale, avec son mari avocat, ses trois enfants, à l'avenir tout tracé, qui rêve de faire Yale ou Harvard, je sais plus quoi. Bon, voilà, vous voyez un peu l'idée.
Ouais.
Et du coup, on va avoir forcément un peu conflit entre ces deux mères de famille, voilà, qui va apparaître au fur et à mesure. Bon, je vais pas en dire plus sur le pitch, parce que moi, je savais absolument pas du tout à quoi m'attendre. Je savais même pas si c'était une comédie ou pas, tu vois, pour tout te dire. Et je pense que c'est pas mal d'y aller en n'en sachant pas trop. Je vais quand même dire quelques petites choses pour que vous sachiez, bah, surtout toi, si jamais ça peut vous plaire ou pas. Déjà, je vais dire que ça traite de sujets sociétaux assez intéressants. Vous avez remarqué, j'aime bien quand ça traite de sujets sociétaux. Donc ça parle par exemple de racisme ordinaire, du rôle d'une mère, quand est-ce qu'on est une bonne mère ou une mauvaise mère, enfin, entre guillemets, puisque... de l'adoption, voilà, de sujets un peu comme ça. Je la recommande fortement, vraiment chaudement. J'ai beaucoup aimé et je trouve qu'elle ouvre au débat sur plusieurs sujets. Donc, pour donner un exemple, moi j'étais pas satisfaite... Il y a plusieurs un peu intrigues qui se suivent et il y en a une, j'étais pas du tout satisfaite de comment elle se terminait. Et quand j'ai écrit pour me plaindre à ma mère, qui du coup je savais l'avait vue, elle m'a dit « Ah non, mais moi je trouve ça totalement normal, Charline, qu'est-ce que tu racontes ?» Je dis « Mais non !» Et on s'est mis à avoir un débat sur quelque chose. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte, je me dis « Mais en fait, ok, ça me satisfait pas parce que j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça. Mais en fait, il n'y a pas de bonne ou de manière... de bonne ou de mauvaise manière pour que ça, cette intrigue, entre autres, se passe. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'est vraiment bien fait, parce que très souvent, dans beaucoup de séries, il y a un peu le méchant, le gentil, et on t'amène un peu à penser d'une certaine manière, que ce soit négatif ou positif, même quand c'est quelque chose d'un peu féminin, une série un peu féministe, on va t'amener à penser comme on aimerait que tu penses. Et là, en fait, j'ai trouvé que c'était très ouvert au débat, vraiment, on t'expose les choses.
Ça te laisse le choix.
Et ça te laisse vraiment le choix, voilà. Mmh. Et du coup, j'ai trouvé ça génial, et même si j'ai détesté du coup la fin, encore une fois.
Oui, c'est assez rare.
J'aimerais bien que tu le...
C'est assez rare, non?
Mais oui. Mais du coup, j'aimerais vraiment bien que tu regardes ou que un de nos auditeurs le regarde et nous envoie des petits messages en privé pour discuter de ça, parce que c'est des sujets assez graves, assez importants, et je trouve que c'est sympa la manière dont c'est traité. Et le dernier point, bah, le casting incroyable, hein, je vous ai dit déjà, Reese Witherspoon, qu'on ne présente plus. Joshua Jackson, donc pour ceux qui ont oublié Percy dans Dawson, qui est en petit rôle, mais quand même, hein, qui est quand même présent, et qu'on ne voyait plus trop depuis Dawson, en tout cas moi je n'ai pas trop suivi, je ne le voyais plus trop. Et on a également Kerry Washington, star de la série Scandal, qui est une très bonne série d'ailleurs aussi. Voilà, voilà.
Cool, tu m'as intriguée là du coup.
Ouais, elle est bien, elle est vraiment bien. Mais pareil, les critiques sont très élogieuses. Hein. J'ai regardé un petit peu ce qui se disait. Et vraiment, pour l'instant, les gens sont satisfaits de manière générale.
Très bien, je note.
Et on va passer à la dernière plateforme. Oui. Que je n'ai pas moi, mais je pense m'abonner pendant les vacances de Noël. Parce que j'ai repéré plusieurs petites séries que j'ai envie de regarder. Et bizarrement, pas des séries dont tu vas parler.
Donc là, on parle donc d'OCS. Et oui, t'as noté que tu voulais voir Euphoria et His Dark Materials. Donc Euphoria, que j'ai toujours pas vu.
Oui.
Mais qu'effectivement, j'ai entendu énormément de bien. Donc je vais peut-être finir par la regarder. His Dark Materials, que j'ai vu, mais je l'ai pas mis dans mon top. Donc... mais voilà.
Donc je te laisse parler d'OCS, mais j'interviendrai peut-être.
Alors,
j'aime bien intervenir.
L'intérêt d'OCS pour les séries, c'est en particulier son catalogue HBO. Donc les séries dont je vais parler, c'est que des séries HBO, je crois. C'est marrant que tu parlais de Reese Witherspoon parce que c'est une des actrices principales de la première série dont je vais parler, donc Big Little Lies, qui, pareil, c'est une série qui a beaucoup fait parler et qui a été un bon succès, donc qui a deux saisons. Donc c'est du genre dramatique aussi, un drame. Deux saisons, donc 14 épisodes d'environ 50 minutes. Donc ça fait 11h30 de visionnage. Je pense qu'effectivement, quand on commence une saison, on l'enchaîne pas mal. Par contre, les deux saisons, vraiment, je pense vous pouvez faire une pause entre les deux. C'est pas mal, même si ça s'enchaîne, c'est la suite directe. Donc, de quoi ça parle ? Donc, en fait, on suit des mères de famille, encore une fois, d'une communauté cossue de la côte californienne. Dans une espèce de ville, village, enfin avec des grandes maisons au bord de la mer, enfin c'est magnifique. Et donc en fait, il y a l'arrivée d'une nouvelle jeune mère célibataire dans cette ville. Et il y a un incident entre deux enfants, donc, dont le fils de cette nouvelle jeune mère, qui en fait amène un peu un élément perturbateur dans ce quotidien apparemment parfait. Donc c'est un petit incident, hein, c'est rien de grave, mais ça monte en mayonnaise en gros. Et tout se monte en mayonnaise tellement que ça finit par un meurtre. Et donc on apprend en fait dès le début qu'il y a eu un meurtre, mais en gros tout se passe en flashback en fait. Donc voilà, et on voit ressurgir au fur et à mesure les parts sombres de chacune. Voilà, donc c'est très psychologique comme série. Donc pourquoi je la recommande ? Bon, déjà pour son casting féminin qui est juste époustouflant, on peut dire. Hein. Donc on a Reese Witherspoon, comme on a dit, on a aussi Nicole Kidman, Laura Dern, Zoe Kravitz. Voilà, excusez du peu. Et puis aussi quand même du côté des gars, il faut quand même que je mentionne Alexander Skarsgård pour les... pour les fans de True Blood notamment, peut-être, qui se souviennent de Skarsgård.
Oui, je me souviens.
Voilà, donc on le retrouve. Donc déjà, je voulais quand même faire une mention spéciale pour Nicole Kidman, qui est juste parfaite. Enfin, je l'ai vraiment redécouverte avec cette série. Elle a un personnage vraiment bouleversant dans Big Little Lies. Et c'est vraiment une ambiance, du coup, de vie privilégiée qui est... On se rend assez vite compte qu'elle est trop parfaite, en fait, cette vie... de riches californiens, et que c'est trop lisse et que tout se joue sur des faux semblants qui vont en fait se fissurer petit à petit. Émotionnellement, c'est très fort, c'est très prenant. Je mettrais quand même un trigger warning pour les personnes qui peuvent être touchées par les thématiques du viol et des violences conjugales, sans vouloir spoiler, mais c'est au cœur des intrigues de la série, au-delà du meurtre. C'est vraiment des sujets qui sont traités avec beaucoup de réalisme et beaucoup de sensibilité pour les victimes. Donc, c'est notamment au niveau des violences conjugales, je trouve que c'est une des séries qui le traite le mieux, je trouve. Sinon, au niveau du suspense, c'est très bien mené. Donc, en fait, comme je disais, c'est une narration un peu spéciale où on voit, en fait, dès le début, les femmes être interrogées au commissariat pour un meurtre dont on ne sait pas qui est la victime, en fait. Et c'est tout le but de la première saison, c'est de reconstruire, en fait, via des flashbacks, les récits plus ou moins fidèles des personnes sur le déroulé des événements. Et c'est qu'à la fin qu'on saura qui est mort, en fait. Voilà. Donc, c'est une bonne manière aussi de s'accrocher et d'avoir envie de savoir la fin, quoi. Donc, j'en profite aussi, du coup, pour recommander The Undoing, qui est aussi sur OCS, qui par le même showrunner, qui vient de commencer, là, il n'y a que les deux premiers épisodes qui sont sortis, et c'est vraiment dans la même veine que Big Little Lies, et c'est aussi avec Nicole Kidman qui joue le rôle principal, et mais c'est vraiment très, très, très chouette aussi comme série, enfin, en tout cas, les débuts sont très prometteurs.
Ok. Moi, je l'ai vu.
Ah, tu l'avais vu ?
Je crois pas que je te l'avais dit.
Non, mais...
je l'ai vu, je crois qu'elle était passée sur M6.
Oui, oui, et... c'est possible, ouais.
Oui. Et du coup, j'avais vu la saison 1 sur M6, je crois, et du coup, j'avais été voir la deuxième après, de manière pas très légale. j'avais beaucoup aimé.
Ouais.
J'avais vraiment beaucoup aimé. Je la recommandais pas parce qu'elle n'était pas revenue dans ma tête, tu vois. Comme quoi, c'est quand je réfléchissais dans mes séries coup de cœur. C'était pas elle à laquelle je pensais, mais j'avais vraiment accroché.
Ouais. La saison 2 est très chouette aussi, avec... Meryl Streep qui arrive pour rajouter au casting de rêve. Ensuite, changement d'ambiance, toujours sur HBO, mais alors là, c'est vraiment une série hyper connue, on va dire, mais Westworld, il fallait quand même que je le mentionne. Qui est donc là, cette fois-ci, c'est de la science-fiction slash western, on peut dire. Parce que ça mixe un peu plusieurs... Oui. Mais c'est principalement de la science-fiction, mais il y a aussi une ambiance western. Il y a 3 saisons, il va y en avoir plus. Donc pour l'instant, c'est 28 épisodes de 60 minutes, parfois plus. Donc c'est 28 heures, bien 28 heures de binge-watchage. Je ne conseille pas de le faire d'une traite parce que c'est un peu lourd quand même comme intrigue et il faut le temps de le digérer. Donc, je conseille pas forcément de tout s'enchaîner d'un coup parce que vous allez voir le cerveau qui va fondre, je pense. Voilà. Mais donc, de quoi ça parle ? Donc, ça se passe dans un futur plus ou moins proche où, en fait, grâce à la création de robots androïdes plus vrais que nature... On peut se payer en fait un séjour à Westworld, qui est une sorte de parc d'attractions, jeu de rôle d'immersion, où on peut littéralement vivre un western en fait et agir comme on veut en fait, comme bon nous semble avec ce qu'on appelle donc les hosts. Donc c'est les robots qui sont un peu les personnages qui peuplent ce monde western. Et donc ces robots, en fait, eux, sont réinitialisés constamment dans une boucle narrative qui a été écrite pour eux, quoi. Et jusqu'au jour, en fait, où des bugs commencent à survenir dans le comportement des robots, des hosts, et où ça part en vrille. Voilà. Et donc pourquoi je la recommande ? Donc en fait, c'est une série de, notamment, entre autres, de Jonathan Nolan, donc le frère de Christopher Nolan. Déjà, donc voilà, on vous renvoie à notre épisode sur Nolan. Mais donc, pour ceux qui n'aiment pas trop les prises de tête à la Nolan, passez votre chemin. Hein, c'est vraiment de la version plus, je trouve, encore plus que les films de son frère. Donc, c'est vraiment pour les amateurs d'intrigues alambiquées qui n'ont pas peur aussi d'être un peu perdus pendant quelques épisodes avant que quelques plot twists leur fassent exploser le cerveau et qu'ils réussissent à recoller tous les morceaux et à comprendre enfin ce qui se passe. mais bon, ça fait partie du charme aussi de cette série. Donc vraiment, je trouve que la première saison en particulier, c'est un pur chef-d'œuvre dans ce style. Les autres sont un peu plus divisés, les fans, mais il y a quand même des perles, je trouve, qui méritent qu'on s'y accroche. Ensuite, l'ambiance qui alterne entre western et science-fiction, ça plaira, je pense, à tous ceux qui sont amateurs du genre, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Malgré le fait que les intrigues sont parfois peut-être un peu difficiles à suivre, ça reste quand même du très grand spectacle. La qualité des effets spéciaux est, pour moi, je trouve, quasi inégalée dans une série télé. Hein. Je ne sais pas quel est le budget de cette série, mais ça doit être monstrueux. La thématique de l'intelligence artificielle est très poussée. C'est vraiment le cœur de la série. Et ça pose vraiment plein de débats philosophiques, moraux, presque métaphysiques, qui sont très profonds. Donc on peut, comme d'habitude avec du Nolan, on peut passer outre et juste profiter du spectacle. Mais si on veut vraiment se plonger dans le propos, c'est hyper intéressant. Et du coup, bon, c'est aussi une série très violente. Hein. C'est la débauche de violence de toutes sortes, assez graphique. Parfois, ça peut même être un peu gratuit, mais ça l'est pas vraiment parce que c'est vraiment la thématique aussi à la base de la série, la violence. Donc voilà, mais faut le savoir. Et d'où voilà, je la recommande parce que voilà, c'est quand même une série assez exceptionnelle pour sa qualité, rien que sa qualité visuelle. Mais c'est clairement pas pour tout le monde, quoi.
Moi, je sais qu'elle me tentait bien quand elle était sortie et j'avais pas eu l'occasion ou pas la plateforme pour. Mais elle m'a toujours bien tenté.
Ouais, mais je te conseille au moins pour ceux qui n'ont pas osé encore s'y lancer de tenter la saison 1 et puis de voir si ça vous plaît ou pas. Enfin, dernière série qui, elle, celle-ci est vraiment une vieille série, mais que vous pouvez toujours trouver dans le catalogue d'OCS, une série HBO, donc c'est Rome. Série historique qui fait 2 saisons, 22 épisodes de 50 minutes, donc ça fait environ 18 heures. Donc c'est une série finie. Hein, et donc ça parle de quoi? Donc c'est une plongée dans la Rome de la fin de la République antique, hein, je parle de la Rome antique, la fin de la République, à l'époque du retour victorieux de César, de Jules César, de la conquête des Gaules. Et du coup, c'est toutes les intrigues politiques qui vont mener jusqu'à la chute de la République et à l'avènement de l'Empire. Et quand j'écris ça, j'ai l'impression de parler de Star Wars.
J'avoue.
Donc voilà, c'est une série historique. Donc pourquoi je la recommande? Donc déjà, en fait, c'est une série qui est importante en fait dans l'histoire des séries télé, puisque c'est un peu les débuts des séries HBO très ambitieuses. Et ça a vraiment été un tournant. Malheureusement, elle a peut-être été un peu trop en avance parce que le budget n'a pas suivi en fait les ambitions des showrunners. Et du coup, ils ont dû raccourcir brutalement la saison 2. Je pense qu'ils avaient prévu de faire 3 saisons et ça se sent en fait dans la manière dont la saison 2 se finit. Mais ça reste quand même un vrai chef-d'œuvre et vraiment un modèle d'immersion historique en fait hyper documentée. C'est la reconstitution de Rome est en fait hyper crédible et vivante, donc pour les passionnés d'histoire, mais enfin si vous êtes passionné d'histoire, je pense que vous l'avez déjà vu, mais pour les autres, vraiment c'est hyper intéressant, on apprend plein de choses. C'est une période qui est en elle-même hyper hyper riche, quoi. Donc avec tous ces jeux de pouvoir, toutes ces intrigues, et du coup on retrouve des personnages historiques mais qui prennent vraiment une épaisseur très très humaine, quoi. Et j'ai eu un coup de cœur pour Brutus. Alors c'est pas forcément le personnage historique le plus aimé mais du coup l'assassin évidemment de Jules César, mais vraiment, donc il était interprété par Tobias Menzies, quoi. Après, on a retrouvé dans Outlander, Game of Thrones, etc. Et The Crown aussi. Et vraiment, moi, c'est dans Rome que je l'avais découvert et c'était vraiment déjà mon chouchou. Et l'autre intérêt, du coup, cette série, c'est aussi la manière dont on suit, en fait, en parallèle donc, de ces grands personnages historiques, deux personnages fictifs, Lucius Vorenus et Titus Pullo, qui sont deux soldats qui ont des caractères très différents, en fait, mais qui ont une amitié et une fraternité à travers les épreuves qui est vraiment hyper touchante et qui est un peu au cœur de la série. C'est vraiment, je trouve, un modèle, je trouve, d'amitié masculine vraiment très... C'est très fort, je trouve. Ces deux personnages sont très, très forts, je trouve. Et vraiment, c'est ce qui a, en fait, solidifié la réputation d'HBO, de faire... quand même des séries pleines de violence, de sexe, de boue, de sang, donc faut le savoir, mais voilà, avis aux amateurs.
Ok, ça peut être pas mal.
Encore une fois, c'est un peu comme Downton Abbey, c'est un peu une série culte, mais maintenant je pense qu'elle passe vraiment presque inaperçue dans le catalogue HBO, mais je pense qu'elle est vraiment à découvrir si c'est pas déjà le fait.
Ok. Tu me l'as rajouté sur ma liste quand j'aurai HBO en décembre.
Yes.
Et du coup, on va passer très rapidement sur la dernière plateforme. Parce que bon, c'est une plateforme qui est nouvelle, donc il n'y a pas... il n'y a pas tant de séries que ça dessus, et on en a déjà consacré un épisode du coup à cette plateforme, c'est Disney+. Oui. Du coup, on va vous présenter qu'une seule série, c'est Once Upon a Time. Qu'on a toutes les deux vues, je crois.
Ouais, pas entier, je suis pas allée jusqu'au bout. Mais
c'est ça.
J'en ai vu quand même la majorité.
Alors moi, j'ai vu jusqu'au bout et j'ai même vu les premières saisons qui sont mes saisons coup de cœur plusieurs fois. Elle est disponible aussi, il faut le savoir, sur Prime. Donc c'est une série... Alors j'ai un petit doute sur toutes les saisons, par contre, sur Prime. J'ai pas vérifié. Je me mets à coup le pas. Donc c'est une série fantastique. Il y a 7 saisons. Mais la série est finie. Il n'y en aura pas plus. Il y a du coup... Attention, vous allez prendre peur. 156 épisodes de 43 minutes chacun. Bon... En gros, j'ai quand même calculé, il vous faut 112 heures, c'est-à-dire entre 4 et 5 jours sans dormir pour regarder la totalité. Facile. Bien évidemment, je ne vous conseille pas, il faut dormir dans la vie. Voilà, vous avez compris, hein, c'est pas la série de binge-watchage à faire. Mais, alors moi personnellement, c'est la série que j'adore mettre, parce que, alors elle me dit, en fait j'avais commencé à la regarder à l'époque, parce que du coup bah, c'était il y a plus de 7 ans, hein, à l'époque où je regardais pas forcément en VO parce que je regardais... de manière illégale, ou sur M6. Elle est passée sur M6 et je crois que je la regardais beaucoup sur M6. Et du coup, je la regardais en français. Donc c'est la genre de série qui, comme je suis habituée aux voix, un peu comme Friends, ça me dérange pas de la mettre en français, et donc j'ai l'habitude de la regarder en faisant autre chose. Donc en corrigeant mes copies, en faisant du repassage, en faisant un peu de ménage. Et c'est le genre de série voilà, qu'on peut regarder de manière très intense... Je sais qu'il y a certaines saisons, quand j'attendais avec impatience que ça sorte, et je les regardais vraiment les épisodes de manière très intense, en faisant que ça. Mais une fois qu'on l'a vu, ou les saisons qui sont, entre guillemets, un peu moins intéressantes, parce que forcément sur 7, vous l'avez bien compris, il y a des passages qui sont un peu moins intéressants. Ces passages-là, on peut facilement faire autre chose, manger. Et du coup, ça, les 7 saisons, vous ne les verrez pas passer. Donc, de quoi ça parle ? Alors après une malédiction lancée par la méchante reine, Blanche-Neige, le prince charmant et tous les personnages de contes de fées se retrouvent dans un monde sans magie, le monde moderne tel que nous on le connaît, dans le Maine, du coup aux USA, et tout ça sans aucun souvenir de leur ancienne vie. Et du coup bah, il va y avoir toute la saison 1 tourne autour de la levée de cette malédiction, et puis chaque saison a un peu une intrigue principale, voilà, différente. Donc chaque saison... Il peut y avoir un ou deux arcs autour de un ou deux personnages principaux, mais on voit quand même plein d'autres personnages de contes de fées. Donc moi, c'est vraiment ce que je vous le conseille pour ça. Moi qui adore Disney de manière générale, mais les contes de fées voilà, tout court, je trouve ça hyper sympa en fait de revoir ces personnages. C'est un petit peu ma Madeleine de Proust en fait. Je trouve ça super ouais. De retrouver tous ces personnages de contes qui sont réinterprétés. Qui du coup c'est pas un dessin animé hein, parce que là c'est vrai que je dis Blanche-Neige, le prince charmant etc, c'est pas un dessin animé, c'est bel et bien des acteurs qui jouent pour la plupart très bien. Moi je suis désolée, je n'aime pas le gamin par contre, voilà, le héros principal j'ai un peu de mal. Alors en faisant ma critique j'ai regardé un petit peu ce que le public en pensait, si c'était une série qui était appréciée ou pas de manière générale, et j'ai lu plein de critiques élogieuses comme quoi l'enfant joue à la perfection. Bon bah c'est que moi alors hein, mais moi je trouve pas, mais bon passons. En tout cas, voilà, je trouve ça un côté très satisfaisant de retrouver tous ces personnages. La mise en scène est très sympa. Les personnages sont intéressants, sont attachants pour la plupart. Les décors sont très réalistes, les costumes bien choisis. Enfin, en fait, je trouve que tout contribue à nous plonger dans cet univers un peu de magie et de contes. Et du coup, ouais, je retombe un peu en enfance en regardant cette série. Mais sans me sentir enfantine à regarder un dessin animé, parce qu'il y a quand même des dialogues un peu plus complexes, il y a quand même une intrigue. Après, s'il y a un bémol que je donnerais, c'est que je trouve que ça traîne un peu en longueur parfois, ce qui peut être normal sur cette saison aussi, et parce que certains arcs m'ont moins intéressé que d'autres. Mais ouais. À ce moment-là, bah là, quand je suis en train de me les refaire, je passe en accéléré les passages ou les arcs qui m'intéressent moins. Et puis généralement, le rythme reprend dès que l'arc change, et du coup... ça me va, moi. Il m'en faut pas plus.
Ouais, faudrait que je me souvienne où est-ce que je me suis arrêtée pour reprendre, parce que c'est vrai que j'aimais bien quand même. C'est vrai que j'ai dû décrocher à un moment où c'était moins, ça m'intéressait moins, mais Mais dans l'ensemble, je trouvais vraiment que c'était sympa. C'est ouais, pareil, c'est une série un peu doudou, quoi. Mais
Oui, c'est ça.
après, voilà, ça reste quand même assez kitsch hein, dans l'ensemble. Mais pas, c'est pas du kitsch gênant, quoi. Ça fait partie de l'univers. On l'accepte, c'est du kitsch qu'on accepte, quoi, par rapport
Oui, c'est ça.
au contexte, conte de fées, etc. Mais il y a des réinterprétations de personnages qui sont hyper intéressantes, vraiment.
Ah oui, totalement.
Ouais.
Non, ça vaut vraiment le coup. Si vraiment vous commencez à la regarder et qu'il y a un moment où vous vous dites, oula, ça commence à être long, ça commence à être pénible, j'aime moins, ça tourne en longueur, passez à l'arc d'après, c'est pas grave. Au pire, vous lisez le résumé sur internet. Non, mais vraiment, parce que je me souviens que toi, tu m'avais dit, oh, ça commence à m'ennuyer, t'avais plus trop le temps et tout, donc t'avais un peu arrêté.
Ouais.
Moi, j'avais persévéré, mais pareil, il y avait un passage où j'étais moins dedans. Et quand la nouvelle saison était ressortie, hein, je me suis dit, bon, je lui redonne une chance quand même. Et là, il y avait des personnages hyper intéressants qui étaient arrivés. Et du coup, je t'avais envoyé un message. Tu m'avais dit, oh, mais ça doit être top, mais il faudrait que je m'y remette. Et toujours, tu étais bloqué par ce passage que t'aimais pas, je m'en souviens. Du coup, n'hésitez pas à passer, à lire sur
Ouais.
Wikipédia maintenant que tout est sorti, à lire le résumé de ce qui va vous manquer, et revenir après,
Ouais.
voilà, sur un passage plus sympa.
Ouais, parce qu'il y a des arcs qui valent vraiment la peine, quoi.
Ouais. Voilà, bah, je crois qu'on en a fait le tour.
Ouais, bon voilà, avec tout ça, si vous n'avez pas de quoi occuper votre confinement.
C'est clair. Enfin, un pseudo-confinement, je crois que la plupart des gens travaillent quand même.
C'est ouais. Vos
Mais
soirées, vos week-ends.
oui, les soirées, exactement. Faut s'occuper ces soirées. Alors moi, je tenais juste à faire un petit coucou à une petite liste non exhaustive de séries que j'adore, dont j'aurais bien aimé parler, mais on va peut-être pas faire des épisodes de 4 heures. Mais du coup, ces séries auront des pop stories. Donc suivez-nous sur Instagram, on donne souvent nos avis sur des films qu'on regarde là en temps réel. Mais du coup, je mettrai rétrospectivement des avis sur ces petites séries-là. À moins que cet épisode vous ait superbement bien plu, que vous avez adoré et que du coup on refasse un épisode zapping série, hein. J'en ai encore
Oui.
plein d'autres en tête, mais. Donc du coup, un petit coucou à Sons of Anarchy, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, à Insatiable sur Netflix. Également sur Netflix, il y a la série You, dont on attend une saison 3 qui vient d'être annoncée là prochainement. Sex Education, pareil, on attend une prochaine saison, donc ce sera l'occasion d'en reparler, hein, c'est parfait. Outlander, pareil, on va attendre une prochaine saison, donc c'est top pour ça. Orange is the New Black, qui est fini. Trinkets, je crois que c'est fini, mais j'ai un petit doute. Family Business, dont on attend la prochaine saison. Enfin voilà, c'est.
Ouais.
Et Sherlock, qui est terminé.
Oui. Oui, je
Mais
rajoute évidemment Sherlock, Outlander,
oui.
ça fait partie. Hein. Puis bon, j'ai mentionné Game of Thrones, mais je pense que voilà, c'est
Oui,
pareil.
voilà aussi. Donc voilà, toutes les séries qui ont une saison à suivre, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, il y aura des mini petites reviews sur Insta qui vont tomber dans les semaines qui viennent.
Et donc, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Instagram à PopT Podcast, sur Facebook à Popcorn Therapy, sur la page Popcorn Therapy. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur ces plateformes-là. On aime bien toujours avoir de vos avis et de vos nouvelles sur vos visionnages récents et pourquoi pas des idées pour les prochains épisodes.
Bonne journée!
À bientôt!